Vous êtes sur RTL.
Dominique Tenza, c'est beau.
C'est beau, hein?
Ouais, c'est la première fois depuis le début de l'été. Ah, je blague, ça va.
Il reste quelques jours en plus, donc...
Allez, vivement demain, Dominique.
À demain matin, 5h.
5h, 7h pour nous accompagner, nous réveiller. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à vous dans un RTL Matin où nous aurons les yeux braqués, les oreilles tournées vers les tatamis de Tokyo, quatrième jour de compétition des JO et une médaille d'or dans le viseur de notre super championne de judo, Clarisse Agbegnénou, a tout remporté dans sa vie de sportive. 5 fois championne d'Europe, 5 fois championne du monde, mais il manque le Graal olympique à celle qui est née grande prématurée, opérée d'un rein, bébé, plongée dans le coma. À son réveil, le médecin avait dit d'elle qu'elle sera une battante. Prédiction confirmée pour cette judoka de 28 ans, porte-drapeau tricolore. Vendredi, elle nous disait sur RTL, avant la cérémonie d'ouverture, qu'elle était en super forme et que ce n'était pas une bonne nouvelle pour ses adversaires. La preuve ce matin, 2 combats, 2 victoires. La suite, ce sera sur notre antenne ce mardi. Jour qu'on souhaite historique pour celle qui a été rebaptisée la Teddy Riner au féminin et dont les surnoms sont au choix le bulldozer ou la tigresse. Tout est dit. Bienvenue sur RTL et allez Clarisse, il est 7h.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et toute l'actualité, c'est avec Alexandre de Saint-Aignan à 7h. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une ce matin, les rodéos urbains dans le viseur des policiers.
Les interventions se multiplient et débouchent parfois sur des agressions violentes. Le ministre de l'Intérieur a tenu hier soir à soutenir ses troupes. Des nouvelles restrictions en Haute-Corse qui ciblent désormais les mariages et les anniversaires. Peut-être un pass sanitaire bientôt chez nos voisins allemands. Une nouvelle solution gonflée pour lutter contre les feux de forêt. Et puis la bonne nouvelle de cette matinée aux Jeux Olympiques de Tokyo, ça commence bien pour la judoka française Clarisse Agbegnénou qualifiée pour les demi-finales. Isabelle Langer.
Ah oui, tout se déroule comme prévu pour le moment. Un premier combat expéditif en 19 secondes gagné sur Ippon. Le deuxième contre l'expérimentée néerlandaise Jules Frantzel a été un peu plus accroché, mais la numéro 1 mondiale l'a emporté d'un coca. À 10h, elle affrontera la canadienne Catherine Beauchemin-Pinard. À la clé, une place en finale pour aller chercher la seule médaille qui manque, comme l'a dit Stéphane, encore au prestigieux palmarès de Clarisse Agbegnénou, l'or olympique.
Et on vous retrouvera Isabelle avec Quentin Vasselin et Nicolas Burnon dans une dizaine de minutes pour le journal des Jeux en direct de Tokyo.
RTL Matin.
Il était à Créteil hier soir, Gérald Darmanin, au lendemain d'une attaque au mortier contre des policiers.
Des agents de la BAC ont été pris pour cible alors qu'ils intervenaient pour faire cesser un rodéo urbain. L'un d'entre eux a été gravement blessé par un tir d'artifice. 6 jeunes ont été interpellés. Le ministre de l'Intérieur promet la plus grande fermeté.
Tous ceux qui croient parce qu'ils ont une moto, un quad, une voiture, qu'ils peuvent faire les cow-boys dans un quartier, vous aurez constaté que tant dans les zones de la préfecture de police de Paris que dans le reste du territoire national, ce sont des saisies supplémentaires et ce sont des enquêtes et des interventions supplémentaires. Je dois d'ailleurs dire que la loi va demain mieux condamner tous ceux qui sont auteurs de ces rodéos, puisque le texte que j'ai proposé avec le garde des Sceaux au Conseil des ministres prévoira la saisie automatique et immédiate de tous les véhicules, ce qui sera une manière pour nous aussi de les prendre parce qu'ils entendent le mieux souvent, c'est-à-dire par l'argent.
Gérald Darmanin hier soir à Créteil. Des rodéos urbains qui se multiplient. À Lyon, dimanche soir, un policier a été renversé et blessé après avoir ordonné à un adolescent à scooter de s'arrêter. Un véritable fléau, notamment dans la région lyonnaise, comme à Vaux-en-Velin, Frédéric Perruche.
Ce sont une trentaine de policiers qui sont mobilisés pour l'opération direction le quartier Est, un des hauts lieux des rodéos sur la commune. Caroline Legrand, la commissaire de Vaux-en-Velin.
Des petites motos, des scooters, on a un peu de tout. On peut avoir effectivement des vraies hordes. C'est arrivé où effectivement on avait une quinzaine de motos qui circulaient sans respecter aucune règle du code de la route. Hein. Les feux rouges, les trottoirs, les gens qui sont sur le passage piéton, ils passent, ils cherchent à passer, quoi qu'il en coûte.
Alors que la moitié des effectifs sécurisent le secteur, en sous-sol, d'autres policiers vérifient les boxes vacants à la recherche de motos assistées par des serruriers munis de masses, de disqueuses. Pas de chance, pas de moto retrouvée dans les garages ce jour-là, juste une voiture volée et désossée. Mais l'essentiel du travail des policiers, c'est de traquer les auteurs grâce aux images de leurs exploits.
C'est beaucoup de travail sur images hein, qui se fait, ou effectivement même sur les réseaux sociaux, puisqu'ils ont tendance aussi à se filmer. On va travailler sur l'environnement, mais sur l'engin, la tenue vestimentaire de l'individu, et essayer de raccrocher à d'autres images qu'on peut avoir. Le même travail qu'on fait sur les violences urbaines, où les individus sont aussi masqués, et on va chercher à avoir une image qui peut-être sera une heure avant, où on on voit bien l'individu avec la même tenue et démasqué, et là où on peut l'identifier.
Car l'interpellation en flagrant délit est impossible, pas de course-poursuite, trop dangereux pour le motard et la population.
Le reportage de Frédéric Perruche dans le Rhône pour RTL. Il va falloir s'y habituer sur la côte basque. Le port du masque en extérieur va rester obligatoire jusqu'au 31 août à cause des mauvais chiffres de l'épidémie. Décision de la préfecture qui interdit également la consommation d'alcool sur la voie publique sur tout le littoral basque et à Bayonne.
Et si vous souhaitez fêter votre mariage ou un anniversaire en Haute-Corse à partir du 1er août, il va falloir le déclarer en préfecture.
Alors ça concerne seulement les événements de plus de 50 personnes. Ça fait déjà un bel anniversaire. Les autorités locales serrent la vis face à la multiplication des nouveaux cas de Covid dans ce département très touristique. Julien Fautra.
Oui, absolument. Dès lors que ces événements auront lieu dans des établissements recevant du public et réuniront plus de 50 personnes, un, le pass sanitaire devra être mis en place, et deux, il faudra au préalable déclarer cet événement à la préfecture. François Ravier, préfet de Haute-Corse.
L'idée, c'est de pouvoir contacter l'organisateur et lui dire voilà, nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est telle chose, vous, qu'avez-vous prévu ? Et notamment pour protéger au mieux les personnes de 65 ans et plus qui s'y trouveraient.
Pour les fêtes de village, les organisateurs devront prévoir des barriérages, entrer d'un côté, sortir de l'autre, passe sanitaire à l'entrée, port du masque dans les lieux les plus fréquentés de 6 communes touristiques de Haute-Corse, interdiction des regroupements de plus de 10 personnes sur les plages à partir de 21h. Il y a quelques semaines, le département était en tête des taux de vaccination. Cet élan s'est arrêté. Aujourd'hui, environ 30% des 18-40 ans ont reçu les deux doses et 6 personnes sont encore hospitalisées à Bastia.
Les explications de Julien Fautra pour RTL. On continue depuis la Polynésie française. Emmanuel Macron appelle à poursuivre la campagne de vaccination. C'est tous ensemble que nous vaincrons le virus. Je cite, le cap symbolique des 40 millions de Français primo-vaccinés a été franchi quelques heures seulement après l'adoption du projet de loi sur le pass sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants. Un texte qui rentrera en vigueur au plus tôt le 5 août prochain. C'est la date à laquelle le Conseil constitutionnel pourrait donner son feu vert.
Et tiens, l'Allemagne, elle aussi pourrait bientôt mettre en place un pass sanitaire.
Le pays reste relativement épargné par la quatrième vague, mais les prévisions sont alarmistes avec jusqu'à 100 000 nouveaux cas par jour qui pourraient se déclarer d'ici la fin septembre. Alors l'idée d'accorder moins de droits aux personnes non vaccinées fait son chemin dans la classe politique allemande, Julien Mech aussi.
Accéder à des endroits comme les restaurants, les cinémas ou les stades ne serait plus possible, même pour les personnes non vaccinées qui ont été testées, car le risque de contamination est trop élevé. Une déclaration qui a enflammé les médias ces derniers jours et signée de celui qui est chaque jour au plus proche d'Angela Merkel, le chef de la chancellerie Helge Braun. Mais dans un pays qui a connu une forte mobilisation dans la rue contre les règles sanitaires, les réactions des poids lourds politiques sont restées prudentes face à une vaccination obligatoire. À l'image d'Armin Laschet, le candidat des conservateurs à la chancellerie.
Je ne crois pas à la vaccination obligatoire et je ne pense pas qu'il faille faire indirectement pression sur les gens pour qu'ils se fassent vacciner.
Même son de cloche du côté du gouvernement avec ce positionnement clair de la ministre de la Justice, la social-démocrate Christine Lambrecht.
Il n'y aura pas de vaccination obligatoire généralisée et nous devons avant tout convaincre de l'utilité de la vaccination pour soi et pour les autres.
À peine provoqué, ce débat est pourtant encore bien loin d'être enterré. Les Verts, mais aussi des hauts dirigeants du parti d'Angela Merkel, se sont dit favorables à la proposition du bras droit de la chancelière.
Et le correspondant de RTL en Allemagne, Julien Mech aussi.
Les conséquences de la crise sanitaire, Alexandre, on risque d'assister cet été à une hausse du nombre de noyades.
Manque d'entraînement, manque de pratique pour les enfants dont le Bas-Rhin, le comité départemental de natation, organise des cours gratuits pour les enfants à Bischheim, Yannick Collant.
Et bon, vas-y, cherchez les anneaux, alors.
Ils sont une quinzaine d'enfants à venir profiter de ces cours gratuits de natation sur ce plan d'eau de la Ballastière, à l'image de Théodore, 5 ans, et Nolan, 8 ans.
J'ai appris l'étoile de mer, la vague. Je peux aller jusqu'où j'ai pas pied. N'allez pas peur. J'ai appris à bien nager, j'ai appris le crawl, à faire des pirouettes. Comme ça, on n'a pas peur de l'eau et on a confiance.
Pour les parents assis sur la plage comme Cannes, c'est un soulagement, car avec le coronavirus, cela fait 2 ans que ces enfants n'ont pas pu suivre des cours de natation à l'école.
Le grand, il nage pas mal, mais ma fille, pas trop. Ces 2 dernières années, elles ne sont pas allées à la piscine, à l'école. Donc, moi, je n'ai pas le temps de les amener en dehors de l'école. Il faut qu'ils sachent nager. Comme ça, quand on les amène en vacances, c'est beaucoup plus rassurant.
Isabelle Clavry est la coordinatrice de cette opération Nager Nature.
Et les cas de noyades sont supérieurs cette année aux années précédentes. On sait que les noyades sont avant tout en milieu familial ou en milieu naturel. L'intérêt de ce dispositif, c'était aussi ça. C'était d'emmener les enfants en milieu naturel et pas en piscine. Ça change beaucoup de choses.
Et ces cours de natation gratuits se poursuivront tout l'été dans les plans d'eau autour de Strasbourg.
Reportage signé Yannick Collant pour RTL. En football, un résultat de Ligue 2, Sochaux s'est imposé face à Dijon hier soir, 3-1 en clôture de la première journée.
À l'étranger, la Sardaigne et la Californie ravagées par des incendies gigantesques.
La France se tient prête à venir en aide aux Italiens, en plus des deux Canadairs déjà envoyés sur place. Dans l'ouest des États-Unis, le plus grand brasier de Californie a déjà dévoré l'équivalent de la ville de Chicago, attisé par une chaleur étouffante et par des vents puissants. Pour faire face aux feux de végétation dans le sud de la France, les marins-pompiers de Marseille, eux, expérimentent une nouvelle solution pour surveiller les massifs forestiers. Étienne Baudu.
C'est un ballon de 13 mètres de long gonflé à l'hélium, accroché à un câble depuis la caserne des marins-pompiers. Il flotte au gré du vent à 600 mètres d'altitude et ses caméras haute définition et infrarouge embrassent de là-haut l'ensemble du parc national. Des caméras qu'utilisent d'ailleurs les forces armées au Mali par exemple. Baptiste Régalas, le directeur de la société ANSE spécialisée dans la conception de ballons captifs.
Pour le feu, on est capable de détecter un départ de feu à plus de 15 km. Dans la configuration actuelle, vu l'étendue de Marseille, on couvre quasiment tout Marseille avec un seul dispositif.
Et tout ce qui est filmé est évidemment traité dans le centre de contrôle. Mon opérateur à la main sur un joystick devant deux écrans. Exercice pratique, un incendie factice commenté par le lieutenant de vaisseau Jérémy, responsable du dispositif.
On a un départ de feu sur la Ginesse. L'opérateur, lui, va centrer le départ de feu avec la caméra. Il va pouvoir zoomer au maximum pour confirmer que c'est bien un départ de feu. Donc on verra les flammes, on verra la fumée. L'opérateur va contacter le centre opérationnel. On a l'endroit précis où pointe la caméra, donc en coordonnées GPS. Mais surtout, pour nous, on a un renvoi sur notre cartographie opérationnelle. Là, par exemple, on pointe sur la piste qui est hors catégorie, numéro 309, à proximité de la citerne 430. Donc pour nous, ce sont des éléments qui sont très précis pour pouvoir envoyer rapidement les premiers engins terrestres et aériens.
Et c'est la nuit, le même système avec la caméra thermique. Seul bémol, le ballon doit être redescendu en cas d'orage ou de vent trop fort. Mais pour l'instant, les essais semblent concluants.
Étienne Baudu à Marseille pour RTL.
Papier crayon pour les amateurs de course, ça se passe à Compiègne aujourd'hui, Alexandre.
Et voici les pronostics de Jordan Philippi pour le Quintet. Il vous conseille de miser sur l'As, le 12, le 2, le 16, le 5, le 11, le 15 et la dernière minute, c'est le numéro 16, Shutdown.
C'est bien noté, merci. Alexandre de Saint-Aignan revient à 8h tout à l'heure pour vous informer. Il est 7h11.
RTL. Un été en France.
Un été en France.
Un été en France qui nous embarque ce matin tout près des chantiers de l'Atlantique à bord de l'Espadon, le seul sous-marin français à flot ouvert à la visite depuis 1987 dans l'écluse fortifiée de la base sous-marine de Saint-Nazaire. Bonjour Patrice Gabart.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Après 5 mois de travaux de restauration, un chantier colossal, l'Espadon nous fait plonger sous la banquise en 1964 dans une nouvelle mise en scène.
Oui, avec des images inédites de cette mission secrète projetée sur l'une des parois en béton de la base sous-marine. Des images de la vie à bord pour les 65 membres d'équipage et en extérieur, au contact des glaces.
C'est le premier sous-marin français à avoir navigué sous les glaces avec un de ses sister ships qui était le Marsouin.
Dominique Goujon, ancien matelot puis officier de quart de l'Espadon, avec 6000 heures de plongée.
Et c'était un moment important dans le sens où, comme c'était la première fois, il fallait tester les hommes, le matériel, et je crois que la mission était bien remplie.
Des inscriptions lumineuses sur la coque permettent de situer rapidement des éléments importants de ce sous-marin de 77 mètres de long, comme le panneau d'embarquement des torpilles ou encore la trappe d'accès à l'avant. Un nouveau ponton au ras de l'eau conduit aussi le visiteur au pied du massif, le gros chapeau noir vertical qui abrite le périscope.
Et cette partie-là, on l'appelait le fumoir. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on était en surface, les sous-mariniers remontaient dans cette partie-là, ils étaient à l'abri des embruns de la mer et autres, et ils pouvaient fumer, s'ils le souhaitaient, en surface.
Tiffaine Yvon, responsable du pôle patrimoine à Saint-Nazaire agglomération tourisme.
La visite se fait avec un casque audio guide. On a deux personnages qui vont accompagner le public. Pour les adultes, c'est Marc, qui est un reporter, qui a réellement existé, qui a embarqué à bord lors de la mission en 64. Et donc, on est parti de son récit.
Les sous-mariniers appellent ce compartiment l'enfer.
Et puis, pour les plus jeunes, on part avec Jean Lebidou. C'est le plus jeune membre d'équipage. Et donc, il embarque les plus jeunes dans la découverte du sous-marin.
Portes étanches que l'on franchit tête baissée, presque pliée en deux. Cuisine modèle réduit, douche à l'eau de mer, deux toilettes, pas une de plus. Et des bannettes qui nous semblent minuscules. On explore le quotidien de l'équipage.
On appliquait ce qu'on appelait la bannette chaude. C'est-à-dire que comme il y avait toujours quelqu'un de quart, on avait deux bannettes pour trois personnes. Et on l'appelait bannette chaude parce qu'elle était tout le temps occupée.
Vannes, levier, cadran, tout semble en état de marche.
Le principe de la restauration, c'est d'essayer de conserver au maximum ce qui est d'origine. Ce cadran ici, il était rempli de rouille. Donc là, ce sont des restaurateurs agréés Musée de France qui l'ont démonté. Ont donc traité évidemment la corrosion. Et ensuite, on fait des retouches que l'on appelle illusionnistes.
Au poste d'écoute, une table traçante dessine le parcours du sous-marin jusqu'au nord de l'Islande, au milieu des baleines.
Et ce qu'on entendait le plus fréquemment, c'était les crevettes claqueuses. Des crevettes qui ont ce bruit très spécifique de claquement permanent.
La visite, qui dure en moyenne 40 minutes, se termine dans la salle des torpilles.
Patrice Gabart, merci pour la visite. On y était, on était en France depuis la base sous-marine de Saint-Nazaire. Il est 7h14, ça nous fait combien ça à Tokyo, Japon? Plus 7, faut que je calcule, ça va faire beaucoup. Il doit bien être 14h14, j'imagine. On va retrouver nos envoyés spéciaux sur place dans un instant pour vous dire que tout va bien pour Clarisse Agbenienou, que les basketteuses françaises ont perdu et que c'est terminé pour la japonaise Osaka en tennis. Tous les détails avec Quentin Vasselin en studio et nos spéciaux à Tokyo. On sait toujours pas quelle heure il est, à tout de suite.
Stéphane Carpentier, RTL Matin. RTL à Tokyo.
Mon chef du matin, Tony Cousin, a fait les calculs, grand mathématicien. Il est donc 14h14 à Tokyo, au Japon. Bonjour à vous, Quentin Vasselin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
On va confirmer tout ça avec nos envoyés spéciaux dans la capitale nippone, Isabelle Langer, Nicolas Burnand. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Effectivement, ouais, il est 14h16.
Tout va bien.
J'ai la même heure.
Alors Isabelle, l'événement de la journée, c'est bien Clarisse Agbenienou, hein, la quatuple championne du monde, catégorie moins de 67 kilos, est à Tokyo pour une seule chose, la médaille d'or, et ça se passe plutôt bien.
Oui, deux combats, deux victoires et une qualification en demi-finale. Clarisse Agbenienou a d'entrée donné le ton à cette journée. Fallait vous réveiller tôt, mais surtout, fallait pas être en retard. Il ne lui a fallu que 19 secondes pour l'emporter sur la capverdienne d'origine belge, Sandrine Billier. Un hippon, merci, au revoir. Le deuxième combat était un peu plus compliqué. En face d'elle, l'expérimentée néerlandaise de 31 ans, Jules Fransen, deux fois médaillé de bronze au championnat du monde et une fois au championnat d'Europe. Il a fallu aller au bout des 4 minutes réglementaires pour que la numéro 1 mondiale décroche son billet pour les demi-finales sur Coca. En demi-finale, eh bien, Clarisse affrontera la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard. À la clé, il y a bien sûr une place en finale pour aller chercher son Graal.
Et alors Isabelle, deux combats, deux victoires. Elle vous semble comment ?
Quand elle est arrivée pour son premier combat dans son kimono blanc, Stéphane, j'ai regardé son visage. J'ai vu une championne archi concentrée dans sa bulle, le regard déterminé. Je vous assure, il ne fallait pas être en face d'elle parce que vous preniez une claque. Elle l'a toujours dit depuis sa médaille d'argent à Rio, cette deuxième place n'est pas celle qu'elle souhaitait. Alors depuis cet échec, car pour elle c'en était un, hein, ce titre de vice-championne olympique, eh bien la vie francilienne a tout fait pour atteindre son rêve d'or olympique. D'ailleurs, depuis 2016, elle a gagné 4 fois les championnats du monde, 3 fois les championnats d'Europe. Et l'an dernier, elle avait très mal vécu le report des Jeux. Elle avait même fait une petite dépression. Mais très vite, la compétitrice s'est remobilisée. C'est bien simple. Depuis la reprise des compétitions, après la pandémie, elle a disputé 3 épreuves internationales, 3 épreuves qu'elle a gagnées, notamment son 5e titre de championne du monde en juin dernier. Vous l'aviez d'ailleurs reçu plusieurs fois, Stéphane. Elle n'a qu'un mot à la bouche. Se parer d'or olympique aujourd'hui dans ce merveilleux Nippon Budokan. Et franchement, elle semble vraiment pas mal.
Et Nicolas, l'autre moment fort de la journée, c'est le départ de la course féminine de VTT, programmée à 8h avec deux Françaises engagées, Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot, deux grosses chances de médaille.
Oui, même physique fluet, même natte blonde, la ressemblance entre les deux championnes est saisissante, mais elle reste rivale au sein de l'équipe de France. Pauline Ferrand-Prévot est revenue à son meilleur niveau, titre mondial en 2020 et 2019. Elle a décidé de mener sa préparation de son côté, notamment mentalement, en pratiquant intensivement le yoga. Fini les blessures, la pression, les désillusions, l'abandon à Rio en 2016 en larmes, 12e à Londres en 2012. À 29 ans, la cycliste se dit prête à conquérir une première médaille olympique.
Je ne me considère pas comme l'ultra favorite, même si j'arrive super en forme et que je sais que je suis une fille d'objectif. Pour ma part, on ne va pas se tirer dans les pattes. On a tout intérêt à bien s'entendre, courir ensemble si c'est possible, plutôt que ouais, se rouler l'une sur l'autre. C'est vrai que des fois, on a un peu tendance à trop penser à ce que font les autres. Et finalement, on s'y perd un peu. Et moi, je ne veux pas tomber là-dedans, donc je reste vraiment centrée sur ma performance. Tout peut se passer. C'est aussi ça qui fait la magie du sport.
Sorti un peu de nulle part, Léonin Lecomte, championne du monde chez les espoirs, a explosé ces derniers mois. La Savoyarde de 21 ans a remporté les 4 épreuves de la Coupe du Monde de ce début de saison. Celle que l'on présente déjà comme la Pogacar du VTT a montré une telle aisance qu'il sera difficile de la battre ici à Tokyo.
À partir de 8h donc ce rendez-vous-là. Isabelle, l'un de vos coups de cœur est sur le ring ce mardi, c'est Maïva Amadouche. Et là on parle de boxe, hein.
Oui, la sextuple championne du monde chez les pros s'offre une parenthèse olympique comme le règlement d'ailleurs l'y autorise. Elle entre en lice à la mi-journée pour vous et elle est sans conteste la favorite de la catégorie des légers. Maïva n'a d'ailleurs qu'un objectif, hein, s'offrir la plus belle des médailles. Pour cela, elle peut compter sur deux soutiens de poids, Estelle Mosley et Tony Yoka, les champions olympiques de 2016. Le couple en or de Rio que j'ai rencontré le 5 juillet dernier à Paris, juste avant que l'équipe de France ne s'envole pour le Japon. J'avais demandé à Estelle de se remémorer son expérience des JO.
Des très très gros souvenirs qui resteront gravés encore longtemps, mais ça fait plaisir d'être là et de soutenir la nouvelle équipe et de repartir dans une aventure olympique. On n'est pas athlète, mais le cœur y sera et j'enverrai toute la force que je peux envoyer. Et franchement, ça fait plaisir, on va les soutenir du début jusqu'à la fin. Ça nous replonge un peu dedans, indirectement, et on leur souhaite le meilleur, des médailles et une belle aventure.
Ça change une vie de toute façon, les Jeux.
Quoi qu'il arrive, ça changera leur vie. Ça sera une expérience inoubliable pour eux. Tout ce que je peux leur dire, c'est donnez-vous un max dans chaque combat, chaque moment, autant dans la rigolade, parce qu'à un moment, il y aura des moments où il faudra qu'ils décompressent, qu'ils rigolent un peu, autant dans le sérieux et autant dans les combats, parce que pour rien regretter derrière.
Ça va être des jeux particuliers parce qu'il n'y aura pas de public, etc. Mais bon, ils peuvent en revenir vraiment, vraiment grandis. Quoi qu'il arrive, comme elle a dit, c'est une expérience qui va changer leur vie. Maintenant, c'est à eux de choisir la couleur de la médaille et à eux de choisir ce qu'ils vont faire. Mais quoi qu'il arrive, on sera là. On voulait y être sur place, mais là, ça ne va pas être possible. En tout cas, plein de courage et plein de force.
Tony Yoka qui combattra en septembre prochain sur le central de Roland-Garros. Roland-Garros qui accueillera en 2024 les épreuves de boxe sur le cours Suzanne Lenglen qui va être d'ailleurs équipé d'un toit d'ici là. Et Yoka, comme Estelle Mosley, n'exclut pas d'y disputer les épreuves de boxe pour la championne du monde IBO. Ce pourrait même être le point final de sa carrière.
Bah, joli programme pour nos Français. Donc la boxe, le VTT, le judo, Quentin. Dans les autres sports, la nuit a été compliquée, notamment en basket. Hein.
Oui, les joueuses de Valérie Garnier s'inclinent d'entrée. Défaite des Françaises contre le Japon. Le score 74-70, peut-être un trop plein de confiance pour les Bleus. Andy Millem au micro de France Télévisions.
Je pense que l'erreur, c'est de croire qu'on a une énorme marge sur des Jeux Olympiques. Je pense que l'écart, il est comme ça, d'un côté ou de l'autre. Tous les matchs vont se jouer comme ça jusqu'à la fin. Et il faut être prêt à se battre et vraiment à pas penser que oui, on a de la marge et que ça va aller. Comme on le voit aujourd'hui, c'est jusqu'aux dernières secondes.
Il faudra faire mieux hein, contre le Nigeria et les États-Unis pour espérer aller en quart de finale. Zéro pointé en natation. Charlotte Bonnet rate la finale du 200 mètres nage libre. Elle termine sixième de sa demi. Nous avons Léon Marchand qui échoue lui aussi en demi du 200 mètres papillon. Pas de finale non plus pour Cyrielle Duhamel en 200 mètres 4 nages. En taekwondo, là c'est pas mal. 67 kilos plus 67 kilos femmes. Victoire de la championne d'Europe Altea Lorrain en huitième de finale. Quart de finale très compliqué dès 8h contre la chinoise Shu Yin, championne olympique de Rio en 2016. En surf, déception pour Michel Bourès qui ne passe pas les quarts de finale, défaite dans son run contre le numéro 1 mondial brésilien Gabriel Medina.
Et puis le triathlon féminin est passé à côté, un peu comme les garçons hier d'ailleurs.
Oui, notre meilleure chance de médaille était Cassandre Beaugrand qui a finalement abandonné. La bonne surprise, c'est Léonie Perriot, 5e. Léonie Perriot qui est revenue sur les conditions climatiques très difficiles aujourd'hui à Tokyo.
Non mais il faisait froid même au départ, j'étais très surprise parce qu'on s'était vraiment préparé à des conditions très chaudes, on avait fait beaucoup de thermoroom, au final j'ai dit tout ça pour rien, mais c'est vrai que ça glissait pas mal, il y a deux filles qui sont tombées devant moi, donc j'étais vraiment prudente en vélo, donc c'est pour ça que j'étais souvent derrière, donc j'ai vraiment tout donné et au final je suis vraiment contente.
Les conditions climatiques qui vont être une donnée importante, notamment pour le VTT qui débute à 8h. Et on rappelle donc cette défaite, la grosse surprise, défaite de Naomi Osaka, 6-1, 6-4 en 8e de finale contre Vodrousova, une Tchèque 41e mondiale. C'est pas terrible, elle avait allumé la flamme olympique. On le rappelle, le monde était rivé sur elle, les yeux rivés sur elle et raté.
Les résultats de la nuit avec Quentin Vasselin ici en studio RTL et nos envoyés spéciaux Isabelle Nicolas. On vous retrouve tout au long de la matinale, bien sûr. On refait les jeux ce soir sur notre antenne. N'oubliez pas le rendez-vous. C'est 18h30, 19h, juste puisque j'ai entendu Isabelle. Une petite précision sur l'horaire de la demi-finale de Clarisse Agbegnenou en judo.
10h pour vous.
10h pour nous. Et du coup, il sera quelle heure au Japon alors?
17h. Oh, Stéphane, franchement, faites un effort.
Mais je compte sur vous, vous êtes là pour ça aussi. 7h24, la musique arrive avec Anthony Martin.
RTL, toujours avec vous. RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Bonjour Anthony Martin.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Il est grand temps de découvrir notre pépite musicale du jour. Quel est le programme ?
Alors on a découvert en début d'année, 5 ans après sa disparition, 2 titres inédits de David Bowie. Il s'agit de 2 reprises que Bowie avait enregistrées à la fin des années 90. Une reprise du titre de Bob Dylan, Trying to Get to Heaven. Et une reprise d'un titre de John Lennon, la chanson Mother, qui ouvre son premier album solo. David Bowie admirait John Lennon. En 73, il parlait déjà de cette chanson Mother en interview. Mais ce n'est qu'en 97 qu'il avait décidé de proposer sa propre version. Bowie avait enregistré une première maquette dans sa maison aux Bahamas. Il l'avait finalisée à New York avec son fidèle producteur Tony Visconti. Mother, maman, est un titre qui collait à la peau de John Lennon, orphelin de mère à l'âge de 18 ans, abandonné par son père qui était marin. Il avait choisi de crier leur absence dans cette chanson. Bowie, lui, n'avait rien connu de tout ça. Ses parents l'avaient toujours poussé et soutenu. Mais il s'est emparé de la chanson avec beaucoup de respect et de classe. C'est notre pépite du jour. David Bowie chante Mother de John Lennon. Left you. Oh, I needed you. You didn't need me. Gotta tell you, goodbye, goodbye. Mama, don't go. Voilà, sublime reprise de John Lennon signée Bowie, qui aurait dû figurer il y a 20 ans sur un album hommage, mais Yoko Ono avait annulé le projet. Le disque n'était donc finalement jamais sorti.
Pépite musicale de ce matin avec Anthony Martin. C'est Bowie, c'est cadeau. Merci pour ce moment. Bon réveil à tous, il est 7h27, notre antidote à la morosité des grosses têtes, version Laurent Ruquier, du rire pendant 2h30 avec les temps forts de la saison cet après-midi et une petite sieste pour Pierre, tiens.
Vous pouvez donner un petit coup de coude à Pierre Bénichoux, Chantal de temps en temps, voilà.
Voilà.
Elle lui a dit réveille-toi, on est arrivé.
C'est génial.
Mais qu'est-ce que tu fais quand je suis pas là?
Enfin, Pierre, vous êtes censé être là, je suis désolé.
C'est la nuit qu'on dort.
Ça va, il a la Pierre. Tête du mec qui vient d'être réveillé par une momie.
Ça va, Pierre?
C'est désagréable d'être réveillé. Toi. Foutez-lui la paix. Moi, je réveille pas les gens quand ils dorment. Hein.
C'est vrai.
Ah non, jamais.
Tu viens de le faire.
Je sais que tu m'étais arrivé de dormir. Mais là, je ne dormais pas du tout. Non. Je me disais, mais qu'est-ce que jusqu'à quand je vais rester que c'est con.
Les grosses têtes de Laurent Ruquier. Laurent qui vous attend cet après-midi pour les temps forts de la saison. 15h30, 18h. Régalez-vous. Si vous êtes parisien, fuyez aujourd'hui. On va se régaler dans le ciel, Anthony.
Ah, ça va être incroyable avec une perturbation qui va nous aborder dans quelques heures, donnant beaucoup de pluie. Vous allez me dire, elle va passer, cette perturbation. Oui, mais après, il y aura des averses. Averses qui seront localement orageuses, comme hier après-midi, avec en plus quelques bonnes rafales de vent, le tout sous un ciel bien gris. On aura 22 degrés à Paris au meilleur de la journée. Alors, on a de la marge parce que le record de froid pour un 27 juillet, c'est 15 degrés, c'est en 1914, vous voyez, donc il y a pire. On peut faire pire. Bon, donc aujourd'hui, cette perturbation, on la retrouve actuellement entre la Bretagne, les Pays de la Loire et la Normandie. Elle va donc se décaler jusqu'à la région parisienne, puis vers les Hauts-de-France et le Grand Est en cours d'après-midi. Après ces pluies, les averses orageuses vont prendre le relais et elles sont déjà en train d'arriver près des côtes de la Manche, mais partout ailleurs, on peut compter sur le retour de belles éclaircies en cours de journée, notamment entre la Gironde et le Massif central, mais également de l'Auvergne. Auvergne-Rhône-Alpes à l'Alsace, alors il y aura quelques averses sur les reliefs vers le Morvan, le Jura et les Alpes, puis d'autres arriveront en soirée par le relief pyrénéen, prémisse d'une dégradation orageuse pour la nuit prochaine dans le sud-ouest qui se décalera ensuite jusqu'au centre-est. Et puis évidemment, entre la vallée du Rhône et la Méditerranée, vous aurez du soleil
toute la journée avec de la chaleur puisqu'il fera encore 30 degrés à Marseille, 31 à Ajaccio et 32 à Nîmes. Mais ailleurs, on reste 3 à 5 degrés en dessous des valeurs normales pour la saison, avec 20 degrés à Brest, 21 à La Rochelle et Caen, 22 à Paris et à Lille, 23 seulement pour Bordeaux et pour Tarbes, 24 à Dijon et 26 à Strasbourg.
Un jour on va s'en sortir, un jour on aura un bel anticyclone pour tout le monde ou pas ?
Demain ce sera sec, mais ce sera frais. Vous voyez, donc il y a toujours un mauvais côté.
Ouais, ou un côté positif, ce sera sec, c'est déjà pas mal. Merci Anthony pour les détails. Merci de nous rejoindre, bon réveil à tout le monde, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, on espère que tout va bien. Il est 7h30.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Et 7h30, c'est toute l'actualité du jour avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, recherche remplaçant désespérément.
Pénurie de médecins généralistes cet été. Contrairement aux années précédentes, c'est désormais tout le pays qui est touché. Reportage en début de journal. Il aurait pu être un cousin des Corleone dans le Parrain. Un cardinal, proche collaborateur du pape, est renvoyé devant le tribunal du Saint-Siège. Le septuagénaire est notamment poursuivi pour détournement de fonds. Des pluies diluviennes en Allemagne, en Belgique ou encore à Londres. Des incendies qui se multiplient comme en Californie. Autant de phénomènes qui seront au cœur du rapport du GIEC sur le climat. Un document très attendu avant le début de la COP en novembre. Et du climat justement, peut-être le pire adversaire des JO de Tokyo. Un typhon traverse en ce moment la capitale nippone. On sera en direct avec notre envoyé spécial Nicolas Burnand.
RTL Matin.
Hortense, le cap est désormais fixé, 50 millions de primo-vaccinés avant la rentrée.
Le seuil des 40 millions de premières doses a été franchi hier chez nous. C'est peut-être d'ailleurs un médecin qui vous a injecté le produit. Et c'est un effet un peu inattendu avec la campagne vaccinale. La pénurie des généralistes remplaçants cet été. On connaissait déjà le phénomène dans les déserts médicaux. Mais là, c'est tout le territoire qui est concerné. Reportage de Zoé Pagny.
Sans répit, le docteur Nasreddine enchaîne les consultations dans son cabinet parisien. Allez-y. Elle a fait une croix sur 2 jours de congé pour pouvoir accueillir les patients de ses confrères partis en vacances sans avoir trouvé de remplaçant.
Alors comment ça va ?
Un petit ça va.
Bon, alors on va regarder tout ça.
Mais impossible de satisfaire la demande.
Donc je regarde les notes, là il y a déjà 5 demandes de rendez-vous urgents pour aujourd'hui. Je vais voir qui je pourrais recevoir, qui ne pourra pas être vu.
Et à chaque consultation, la même annonce.
Du coup, la gare de médecine générale maintenant est ouverte que du vendredi au lundi. Okay.
Car normalement, même l'été, le centre reste ouvert le soir, 7 jours sur 7. Pas cette année, donc faute de remplaçant. Dans la salle d'attente, Diaby allait son nourrisson. Elle craint de se sentir abandonnée.
S'il a mal au ventre, par exemple, il pleut sans cesse. On fait comment ? Ça va être un peu compliqué.
Et le cas de ce centre est loin d'être isolé.
Partout, on manque de médecins, dans toutes les spécialités et dans tous les territoires.
Jean-Paul Ortiz est président de la Confédération des syndicats médicaux.
Cette année, en plus, les centres de vaccination ont beaucoup sollicité les retraités, les remplaçants. Tous ces soignants sont sur le pont et on ne trouve plus de remplacement.
Les professionnels de santé s'inquiètent des conséquences de cette pénurie, avec des malades chroniques qui peineront à renouveler leurs ordonnances et des patients contraints de rejoindre les urgences des hôpitaux déjà engorgés.
Reportage de Zoé Pallier pour RTL. Et les hospitalisations, justement, ont dépassé hier la barre des 7000 patients. Près de 1000, eux, se trouvent en réanimation.
Et en vous faisant vacciner, vous aurez droit à votre passe sanitaire. Ce sera obligatoire, notamment dans les trains.
Obligation à partir du début du mois d'août. Il faudra donc présenter son billet et son passe au contrôleur. Mais certains cheminots fustigent l'idée et appellent à boycotter ce nouveau contrôle. C'est le cas de Sudrail, Bruno Poncet et son secrétaire général.
Dans l'état actuel des choses, dans une rame de 500 personnes dans un TGV, vous avez 2 contrôleurs. Ce qui veut dire que vous avez 2 personnes pour vérifier. Enfin, ils ont 8 ou 9 missions à faire, déjà. Et en plus, il faudrait qu'ils vérifient les passes sanitaires des gens, les pièces d'identité. C'est l'enfer. C'est pas possible. Et déjà, actuellement, nos collègues rencontrent quand même pas mal de tensions dans les trains, quels qu'ils soient, du fait du port du masque, du fait de beaucoup de choses. Enfin, vous savez bien que la période Covid crée quand même pas mal de tensions. Si en plus vous leur rajoutez la vérification du pass sanitaire, là, mes collègues vont se retrouver souvent en danger. Donc nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. S'il y a des contrôles dans les trains avant l'embarquement et après, ils parlent aussi de contrôles en sortant du train, eh bien, ça doit être des équipes supplémentaires qui doivent les faire avec des gens assermentés.
Le secrétaire général de Sudrail, joint par Arnaud Touche.
Et puis c'est un homme qui aurait pu être un personnage dans le film Le Parrain de Coppola.
C'est du jamais vu au Vatican. 10 personnes sont renvoyées devant le tribunal pénal du Saint-Siège. La raison, leur implication dans un sulfureux procès financier. Et parmi les prévenus, un homme concentre les attentions puisque c'est un cardinal, proche collaborateur du pape Olivier Bonnel.
L'histoire du cardinal Bechou est celle de la chute d'un des plus puissants personnages de la curie. Pendant 7 ans, il fut le numéro 2 de la puissante secrétaire d'État, occupant le poste de ministre de l'Intérieur du Vatican. Le 24 septembre dernier, il est poussé à la démission par le pape François. La presse commence à fouiller le passé de ce sarde de 73 ans, qui est avant tout un diplomate, passé par les nonciatures en Angola ou encore à Cuba. En 2012, c'est grâce à ses réseaux qu'un sulfureux financier, Raphaël Minchione, est mandaté par le Vatican pour investir dans une société pétrolière en Angola. L'affaire capote et Minchione propose de placer la somme dans un immeuble de luxe à Londres. La suite n'est qu'une série de placements hasardeux et de versements d'argent suspect. Accusé de détournement de fonds ou encore d'abus de pouvoir, le cardinal italien s'est dit victime d'un complot. « J'ai hâte que le procès s'ouvre », a-t-il commenté. Le moment de la clarification approche.
Olivier Bonnel, correspondant de RTL en Italie. En Californie, c'est désormais l'équivalent de la ville de Chicago qui a été ravagée par les flammes des incendies, à tel point qu'ils ont même créé leur propre climat en dégageant des nuages. Et c'est dans ce contexte que les experts de l'ONU pour le climat, le GIEC, se réunissent en ce moment pour établir un nouveau rapport sur l'état de la planète. Un compte-rendu attendu au tournant à 4 mois de la prochaine conférence sur le climat, Sophie Jousselin.
Oui, le 9 août, les experts publieront leurs nouvelles prévisions de hausse des températures et de montée des eaux en lien avec le dérèglement climatique. Leurs précédents chiffres, publiés en 2014, avaient servi de base à l'accord de Paris en 2015. Ils préconisent de limiter la hausse des températures à moins de 2 degrés, voire à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Mais pour la majorité des experts internationaux, on n'y arrivera pas. On est plus sur une hausse de 3 degrés. Le défi à relever est colossal. Il faudrait réduire de plus de 7% chaque année les émissions mondiales de CO2 d'ici 2030, une baisse qu'on a cependant connue en 2020, conséquence de la pandémie et de ses multiples confinements qui ont réduit les activités industrielles et les transports. Ça donne une idée de l'ampleur des mesures à prendre, mais le GIEC y croit peu. Il déclarait récemment que le pire était à venir. Pour les experts, les plans de relance d'après-crise ne privilégient pas assez les énergies propres. D'ailleurs, on s'attend à des émissions de CO2 records en 2023 avec la reprise économique.
Les précisions de Sophie Jousselin.
On file à Tokyo.
RTL à Tokyo.
Des déceptions mais aussi de beaux résultats pour nos athlètes au Japon. Défaite notamment des basketteuses face au pays organisateur pour leur premier match 74-70. La nageuse Charlotte Bonnet, elle n'a pas réussi à se qualifier pour la finale du 200 mètres nage libre. Mais notre porte-drapeau et judoka Clarissa Gbenieno, elle disputera la demi-finale des moins de 63 kilos vers 10h25. Et un invité indésirable est de la partie aujourd'hui à Tokyo et pourrait bien compliquer les épreuves. On parlait de climat il y a quelques instants. Nicolas Burnand, vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur ces Jeux. Et la tempête Nepartak, justement, touche le pays en ce moment.
Oui, cette tempête tropicale qui pourrait se transformer en typhon amène beaucoup de vent avec des rafales jusqu'à 90 km/h. À Tokyo, il pleut par intermittence, mais cela pourrait se renforcer dans la soirée. Dans la baie de Tokyo, ce matin, les organisateurs ont été obligés de repousser d'un quart d'heure le départ du triathlon des femmes. La course s'est déroulée sous des pluies diluviennes par moments, ce qui a provoqué plusieurs chutes sur la route. Les Françaises Léonie Perriot et Cassandre Beaugrand étaient engagées sur cette épreuve. Des épreuves d'aviron aussi ont été reprogrammés. Et puis, il tombait beaucoup d'eau tout à l'heure à Izu, en amont du parcours de VTT cross-country au pied du mont Fuji. La pluie s'est pour l'instant arrêtée sur le tracé, déjà considéré comme le plus dur de l'histoire des Jeux. On espère que ça va tenir, car les Françaises Pauline Ferrand-Prévot et Loana Lecomte, grande chance de médaille pour les tricolores, s'élancent à 8h dans une vingtaine de minutes.
Nicolas Burnand, l'un de nos envoyés spéciaux au JO de Tokyo, que vous retrouverez avec Isabelle Langer à 18h30 dans Refait les Jeux, présenté par Marie Portolano et Jean-Michel Rascol.
Merci Hortense, toute l'actualité c'est quand vous le souhaitez, vous allez directement sur l'appli RTL, il est 7h38.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
C'est l'heure de l'angle éco avec Anaïs Bouissou, bonjour Anaïs.
Bonjour.
On se pose une question ce matin, quelle mouche a piqué le marché de l'emploi américain? Vous nous faites traverser l'Atlantique pour nous intéresser à une singularité, les salariés démissionnent en masse aux États-Unis.
Oui, c'est du jamais vu, les entreprises cherchent vivement à recruter, elles manquent de main-d'œuvre. Il y avait encore 9 millions d'offres d'emploi non pourvues le mois dernier. Et pourtant, au printemps, vous avez pas moins de 11 millions d'Américains, 11 millions de travailleurs, rendez-vous compte, qui ont démissionné de leur travail. C'est à croire que le marché du travail a perdu la boussole, rien que dans le secteur des services. 5% des personnes qui avaient un contrat dans les hôtels, restaurants, dans les magasins y ont renoncé. Autant vous dire
qu'après 2008 et la crise des subprimes, tous ceux qui le pouvaient restaient bien au chaud chez leur employeur.
Alors comment on peut expliquer un tel phénomène ?
Il y a plusieurs explications à prendre avec des pincettes, hein, tant les économistes s'arrachent les cheveux dessus. Premièrement, est-ce que les chèques massivement distribués aux familles pendant la crise ont joué ? Les aides inédites au chômage. Est-ce que les employés ont touché le gros lot et sont partis avec le pactole ? À la marge, peut-être, mais en masse, ce serait étonnant, sachant que ces aides sont ou ont été temporaires. Deuxièmement, est-ce que les Américains sont tellement confiants en l'avenir, en la reprise, qu'ils n'ont pas peur de perdre leur travail ? Peut-être, mais la menace du variant Delta tend à nuancer aussi cette confiance. Ou alors, troisième hypothèse, est-ce que les salariés ne seraient pas en train de reprendre tout simplement le pouvoir sur le marché de l'emploi ?
Et ça, je sens, Anaïs, que cette troisième hypothèse, elle vous plaît. Hein ?
Oui, je trouve cette option intéressante. Est-ce qu'à force de manquer de bras, les entreprises ne vont pas être forcées de faire des efforts pour améliorer les emplois, les conditions de travail et les rémunérations ? Un exemple, dans un Burger King du Nebraska, pour dénoncer leurs conditions de travail, les employés ont mis une pancarte à l'entrée avec marqué « On démissionne tous, désolé pour le désagrément ». C'est une pression d'autant plus intéressante que le président Joe Biden lui-même l'encourage. Dans une interview, il conseille aux entreprises qui manquent de bras, tout simplement, d'augmenter leurs salariés, de les payer plus pour les faire venir.
Est-ce qu'on peut imaginer que ce marché fou du travail permette d'augmenter les salaires ?
Oui, c'est en cours. C'est la Banque centrale des États-Unis qui le dit. Alors, les hausses de salaires restent modérées, mais ce sont les bas salaires qui en profitent le plus. Plusieurs mastodontes américains comme McDonald's ou Amazon communiquent sur ces augmentations de salaires, entre 11 et 17 dollars de l'heure minimum, pour embaucher plusieurs dizaines de milliers de salariés.
Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer ce même phénomène des hausses de salaire chez nous en France ?
Alors pas forcément, hein. Déjà parce que notre taux de chômage en France est plus élevé, il est d'à peine 5,9% aux États-Unis. Ensuite parce que le SMIC, les cotisations sociales et globalement le marché du travail ne fonctionnent pas pareil. Et enfin parce qu'aux États-Unis, il y a un autre phénomène à regarder de près, c'est l'inflation. La pénurie de matières premières entraîne aussi de fortes hausses de prix sur les produits.
Et est-ce qu'on peut dire que c'est un bon signe pour l'économie ?
C'est un bon signe à condition que l'économie ne s'emballe pas. Jusqu'ici, la Banque centrale américaine soutenait que cette inflation était provisoire. Désormais, il va falloir surveiller comme le lait sur le feu que les prix des produits ne flambent pas à mesure qu'augmentent les salaires et que valsent les contrats de travail.
Anaïs Bouissou, l'Anglais Codo ce matin, 7h41, vous podcastez, vous réécoutez, vous avez à disposition l'appli RTL. Dans un instant, on va parler politique, se projeter. Demain, c'est le dernier Conseil des ministres, il y a le virus, il y a une pause, il y a des vacances et la présidentielle 2022 dans moins de 10 mois. A tout de suite.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
Bonjour à tous, il est 7h43 en ce mardi et l'invité de RTL Matin est donc en direct et en studio, Christelle Craplet. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes directrice d'études à l'Institut de sondage BVA Opinion, spécialiste des questions sociétales et politiques. À la veille du dernier Conseil des ministres avant les vacances, après une année, une deuxième année même extrêmement compliquée, inédite à cause de la pandémie, à quel niveau de popularité se trouve le gouvernement aujourd'hui ?
Alors, on a un niveau de popularité en ce qui concerne Emmanuel Macron, qui est à 39% d'opinion positive. C'est globalement, finalement, à peu près le même niveau que ce qu'il était au début de la crise sanitaire, en mars 2020. On a eu des petites évolutions, mais finalement, il se maintient dans un étiage autour de 40%. Et en ce qui concerne Jean Castex, c'est assez proche, il est à 42%. Alors lui, il a beaucoup baissé suite à sa nomination, mais finalement, lui aussi se stabilise relativement depuis quelques mois. Et puis, particularité un peu de la situation, c'est que finalement, leur popularité est assez proche, elle se suit, alors qu'on avait, du temps d'Édouard Philippe, une popularité plus forte pour le Premier ministre que pour le Président de la République.
Ça veut dire quoi ? Que globalement, les Français sont plutôt satisfaits de la manière dont sont gérées les choses par l'exécutif ?
Alors, il y a quand même une majorité de Français qui est contre, enfin, qui a une mauvaise opinion et du Président de la République et du Premier ministre. Mais c'est vrai qu'en termes de niveau, on va dire qu'une popularité autour de 40%, dans un climat général assez négatif, un peu de défiance, c'est finalement pas si mal, a fortiori dans le contexte actuel. Si on met ça un peu en perspective avec les prédécesseurs, c'est beaucoup mieux par exemple que ce que faisait François Hollande à quelques mois, un an avant la présidentielle. Et c'est un petit peu mieux aussi que ce que faisait Nicolas Sarkozy. Donc on est dans une situation pour le gouvernement qui n'est pas non plus ultra favorable. Il y a quand même une majorité de Français qui sont contre l'action qui est menée ou qui ont une mauvaise opinion de l'exécutif. Mais qui n'est pas si mal à un niveau finalement plutôt pas mal, on va dire.
À l'intérieur du gouvernement, est-ce qu'il y a des ministres qui se détachent du lot aujourd'hui dans vos études ?
Alors, finalement, quand on regarde un peu notre palmarès, les gens dont on aimerait qu'ils aient un petit peu d'influence à l'avenir, bon, celui qui reste en tête, il n'est plus au gouvernement, c'est Édouard Philippe. Et quand on regarde les membres du gouvernement, finalement, celui qui s'en sort le mieux, c'est Bruno Le Maire, qui a une cote d'influence qui arrive en cinquième position dans notre palmarès et dont la cote d'influence est plutôt positive. Juste devant Roselyne Bachelot, qui a quand même une cote de popularité qui reste assez élevée auprès des Français, même si elle a un petit peu diminué. Mmh. Et puis Olivier Véran. Un effet aussi, il faut toujours noter dans ces palmarès, de notoriété. Hein. Certains ministres sont encore très peu connus des Français. Mais voilà, finalement, c'est une figure politique assez classique, celle de Bruno Le Maire, un poste stratégique qui reste en tête.
Voilà, politiques hein, qui sont aux avant-postes dans vos études, est-ce que des personnalités issues de la société civile sont plus populaires que d'autres ou moins finalement ?
Finalement, pas tellement. Je prends le cas d'Éric Dupond-Moretti. Il ne se distingue pas particulièrement dans nos enquêtes. Sa cote d'influence n'est pas très élevée. Il se situe finalement au même niveau que d'autres ministres comme Marlène Schiappa. Et il est finalement moins influent, on souhaite un peu moins qu'il ait d'influence à l'avenir que des figures plus politiques, plus traditionnelles, comme je disais, le ministre de l'économie Bruno Le Maire.
Christelle Craplet, on dit souvent que les Français, c'est un peuple particulièrement insatisfait. Est-ce que c'est pareil chez nos voisins ? On prend toujours l'exemple des Allemands. Comment ça se passe face à la popularité, par exemple, de la chancelière ?
Alors, il y a vraiment un écart très très fort entre les Allemands et les Français. Quand on dit que les Français sont plus critiques, plus pessimistes, c'est vrai, hein, quand on fait des enquêtes un peu internationales à l'échelle européenne, on voit, si on prend même la moyenne de l'Union européenne, que les Français sont systématiquement en dessous, un peu moins optimistes, un peu plus critiques sur un certain nombre de domaines. Et si on compare spécifiquement aux Allemands, il y a un vrai écart, notamment en termes de perception du gouvernement et d'adhésion à la politique qui est menée.
Alors, chez nous en France, lors des derniers scrutins, on a boudé clairement le rendez-vous avec les urnes. Est-ce que ça veut dire que le fossé il se creuse entre les Français et la classe politique ? Vous parliez tout à l'heure de défiance.
Alors, c'est vrai qu'il y a une forte défiance généralement des Français à l'égard de la classe politique, à l'égard de la politique en général. Après, ça ne veut pas dire qu'ils sont désintéressés, hein, et notamment sur de grandes échéances comme à venir la présidentielle. Quand on leur demande si c'est une élection qui les intéresse, les trois quarts vous répondent par l'affirmative. En fait, c'est une situation un peu spécifique. On a des Français qui sont défiants à l'égard du personnel politique, mais qui continuent quand même de s'intéresser à la chose politique. Simplement, finalement, leur engagement peut prendre d'autres formes. Je prends par exemple les jeunes, qu'on dit souvent dépolitisés, désengagés. Nous, on a mené récemment une grande enquête sur l'engagement et on voit que beaucoup de jeunes se disent engagés. Simplement, la manière dont ils l'expriment ne va pas forcément passer par les canaux traditionnels et notamment par le vote, mais va s'exprimer différemment. Ils vont pouvoir, par exemple, s'impliquer dans une cause spécifique qui va leur tenir à cœur.
Et justement, par rapport à ces jeunes, est-ce que ce n'est pas un échec des politiques de ne pas réussir à les faire venir au scrutin et aux urnes ?
Alors, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'ils ont énormément de mal à les mobiliser. Alors, c'est pas complètement nouveau. Hein. Structurellement, on a toujours les jeunes qui s'abstiennent davantage. Mais c'est vrai que c'est un vrai défi, notamment pour les politiques, d'essayer finalement de mobiliser les jeunes et de leur donner envie de s'exprimer aussi sur la scène politique et de la manière démocratique classique, on va dire, qui est le vote.
Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le président Emmanuel Macron. Vous nous disiez tout à l'heure que les chiffres sont plutôt bons, entre guillemets, concernant sa cote de popularité. Il bénéficie de 40% d'opinion favorable environ, hein. Selon les études. Dans les faits, il y a toutes ces manifestations anti-vaccins, anti-pass sanitaires, comme le week-end dernier, comme sur les réseaux sociaux, où il est très très ciblé. Il peut faire l'objet aujourd'hui d'une véritable haine. Il est président de la République.
Oui, c'est quelqu'un d'assez clivant. Quand vous regardez, par exemple, notre question classique, hein, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion ? Ceux qui nous disent « j'ai une très mauvaise opinion de lui », donc qui vraiment expriment un fort rejet, sont 27%, donc ce qui est loin d'être négligeable. C'est beaucoup plus, par exemple, qu'une figure comme Jean Castex, qui va moins susciter l'opposition. Et on leur demande souvent de nous dire « mais pourquoi vous avez une mauvaise opinion ?» Et certains verbatim sont assez virulents. Hein. Les personnes peuvent utiliser des mots très forts, voire même des insultes à son égard. Donc on voit pour une partie des Français, il suscite un vrai rejet. Quand on regarde un petit peu qui c'est, on a une défiance et un rejet qui est beaucoup plus fort chez les ouvriers, les personnes qui ont des bas revenus, avec cette accusation qui revient systématiquement depuis son mandat d'être le président des riches, qui ne s'intéresse pas finalement aux classes les plus populaires. Et puis sur le plan politique, il est extrêmement rejeté aux deux bords, on va dire, extrêmes de l'échiquier politique, à la fois chez les sympathisants du Rassemblement National, chez les sympathisants de la France Insoumise. Oui. Donc clairement, c'est une personnalité quand même assez clivante. clivante, c'est sûr.
Une personnalité clivante, mais pourquoi ? C'est-à-dire sont ses mots, son comportement, son action, c'est tout ?
Alors, c'est un peu tout. Il y a sa personnalité. Quand on regarde ce que les gens nous disent, il y a quand même beaucoup de critiques à l'égard d'une attitude perçue comme hautaine, comme arrogante. Donc ça peut jouer dans le rejet qui suscite. Et puis, il y a quand même aussi, pour une partie des personnes qui ne l'apprécient pas, un rejet de la politique qui est menée, qui est jugée trop favorable à une catégorie de population ou inefficace pour résoudre les principaux problèmes de la France. C'est un mélange un peu de fond, on va dire, de critique de sa politique. Et de forme de sa personnalité en lui-même.
Et si on se retourne vers le passé, est-ce qu'il est plus clivant aujourd'hui que ne l'était Nicolas Sarkozy ou son prédécesseur François Hollande ?
Alors, il est assez proche finalement de ce qu'on pouvait observer à l'égard de Nicolas Sarkozy à l'époque, qui était aussi un président assez clivant, qui suscitait chez une certaine catégorie de personnes un fort rejet et qui en même temps suscitait aussi beaucoup d'adhésion, parce qu'on a ça aussi chez Emmanuel Macron, une partie des Français qui apprécient au contraire le côté jeune, le côté réformateur et qui lui sont restés très très fidèle depuis le début. Donc en ça, il est finalement assez proche de Nicolas Sarkozy. François Hollande, c'était assez différent. Très vite, il a quand même basculé, notamment à la fin de son mandat, dans une très très forte impopularité, bien plus forte que celle d'Emmanuel Macron. Et donc finalement, il était presque plus clivant. Il avait presque la majorité vraiment contre lui, quoi.
On parle ensemble ce matin de ce monde politique et de ces Français et de la liaison entre les deux. Mais les Français, d'une façon globale, comment ils vont ? Quel est le moral des troupes en ce moment ?
Alors le moral, il est particulier. Alors c'est vrai que nous, pendant très longtemps, on a suivi le moral des Français pendant toute la crise. Ils avaient globalement pas trop le moral. À chaque fois qu'il y a une période de déconfinement, quand même, ça va un petit peu mieux, même si les Français restent quand même des gens extrêmement pessimistes dès qu'on leur pose des questions sur l'avenir du pays. Là, c'est vrai que la situation est un peu particulière. Il y avait un mieux. On sentait que c'était l'été qui arrivait, peut-être enfin le sentiment d'une sortie un peu du tunnel. Et puis avec le regain de la quatrième vague, de nouveau les cas qui repartent à la hausse, tout ça contribue quand même à créer une sorte de morosité un peu ambiante et une sorte de fatalité. On se demande, les Français se demandent un petit peu quand est-ce que tout ça va pouvoir se terminer et quand est-ce que les choses vont... Enfin, bah, il y aura un peu la sortie du tunnel qui va finir par se dégager.
Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'en 2021, là, on est fin juillet, on a une société fracturée ? Ça se constate, ça, sur des cartes, sur des chiffres ?
Alors, on voit quand même beaucoup de différences très fortes au sein de la population sur un certain nombre de sujets. Donc, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de fractures sur des sujets sociétaux, sur la perception de la politique gouvernementale, sur aussi ce qu'il faut faire pour se sortir de cette crise, pour essayer de rester dans le jeu mondial. Donc, on a quand même des clivages à la fois sociaux, on va dire, entre ce que pensent les catégories socio-professionnelles moins aisées versus celles qui sont plus aisées. On a aussi des clivages entre ceux qui vivent dans les villes par rapport à ceux qui vivent dans les banlieues. La crise des gilets jaunes a quand même mis tout ça un petit peu sur le devant de la scène. Donc c'est vrai qu'on a quand même une société qui, sur un certain nombre de sujets, est assez fracturée.
Alors la crise des gilets jaunes, justement, ça semble se prolonger avec tous ces anti-vax et anti-pass sanitaires. Ça défile tous les week-ends. Alors ce sont 160 000 personnes le week-end dernier, si je ne me trompe pas. Face à ça, il y a 600 000 personnes qui se font vacciner. Mais est-ce que ça peut éclater dans les mois prochains ? Est-ce que cette colère, elle peut se manifester concrètement ?
Bah, on sent quand même une forme de colère latente chez une partie de la population. Elle s'est exprimée lors de la crise des gilets jaunes. Elle semble se réexprimer aujourd'hui. C'est, pour l'instant, on a des Français qui sont un petit peu plus réservés, on va dire, à l'égard du mouvement actuel qu'ils ne l'étaient à l'égard des gilets jaunes, où il y avait quand même une forme de bienveillance qui s'exprimait. Il y a quand même, là, je voyais une enquête récemment qui disait qu'un tiers des Français finalement approuvaient quand même le mouvement. On voit quand même que ces mouvements, s'ils durent, s'ils se répètent, si finalement il y a une sorte de retour un peu de ces manifestations toutes les semaines, d'éventuels débordements, ça peut concourir effectivement de nouveau à une situation de crise comme celle qu'on a vécue lors des Gilets jaunes.
Et ça risque d'animer la campagne présidentielle.
Oui, c'est particulier, effectivement, plus le contexte de la présidentielle va se rapprocher, plus effectivement tous ces événements vont prendre encore plus d'importance dans la société et puis à l'égard des prochaines échéances électorales.
Il y a toujours ces Français qui pensent que le monde politique est très loin de la réalité du quotidien, c'est ça.
Ça, c'est vraiment une constante quand on interroge les Français. Les hommes politiques sont proches de vous, ils vous disent non, ils sont éloignés de mes préoccupations, ils ne nous comprennent pas, ils ne sont pas suffisamment à l'écoute. Et c'est vraiment très très dur, quelque part, pour le personnel politique de regagner la confiance des Français sur ces sujets-là. Et on n'a pas non plus de figure, parce qu'il y a quand même une contestation qui existe à l'égard du gouvernement, mais il n'y a pas de figure pour l'instant dans l'opposition qui arrive à capter très très fortement ce mouvement. Alors, il y a quand même évidemment Marine Le Pen ou, qui continue d'avoir un socle élevé, mais ça va être intéressant de suivre tout ça pour la prochaine échéance présidentielle.
C'était précieux de vous écouter. Merci à vous, Christelle Craplet, de nous avoir accompagnés ce matin sur la situation du moment. Directrice d'études à l'Institut de sondage BVA Opinion et spécialiste des questions sociétales et politiques, on l'a bien compris en direct. Il est 7h55, dans un instant, Cyprien Sini pour C'est pourquoi de l'été. À tout de suite.
Stéphane Carpentier,
RTL Matin. RTL, les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini.
Et oui, la réponse à toutes les interrogations, Cyprien, en cette période estivale, il n'y a pas de questions idiotes, il n'y a pas de petites questions, la preuve.
Bonjour, je m'appelle Victoire, j'ai 8 ans. Je voudrais savoir pourquoi il y a des objets qui flottent et des objets qui ne flottent pas.
Ah bah alors là, c'est très simple, hein, puisque, attention, tout corps plongé dans un fluide subit une force verticale de bas en haut opposée au poids du volume du fluide déplacé. Vous n'avez rien compris ? Moi non plus. C'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Archimède, c'est un scientifique grec qui, il y a 2200 ans environ, en prenant son bain, a théorisé et expliqué pourquoi certains objets flottaient et d'autres non. C'est aussi lui qui, après sa découverte, tout content en sortant de son bain, s'est écrié le fameux « Eureka !» qui signifie « j'ai trouvé » en grec. Bref, pour expliquer plus simplement pourquoi certaines choses restent à la surface et pas d'autres, il faut s'intéresser au poids et au volume d'un objet. En gros, quoi qu'il arrive, l'eau exerce une force qui pousse à rester à la surface. Quand vous enfoncez une bouée dans l'eau, elle remonte. Mais si l'objet est trop lourd par rapport à sa taille, il coule. Une bille de plomb, par exemple, elle est toute petite, mais elle coule. Alors qu'une bille de plastique, elle est toute petite aussi, mais elle flotte, car elle est toute légère et du coup, la pression de l'eau est suffisante pour la maintenir en surface. En fait, plus un objet est lourd, plus il faut qu'il soit long pour flotter, car la surface d'eau en dessous est plus importante et donc la force de l'eau pour le maintenir est plus grande. Un tout petit bateau, par exemple, pour flotter, doit être léger. S'il est lourd, le bateau doit être grand, sinon il coule. Vous pouvez même faire cette expérience chez vous avec un simple verre d'eau et un peu de pâte à modeler. En plus, ça vous occupera vos enfants s'il ne fait pas beau. Bref, vous roulez la pâte à modeler en boule et la plongez dans le verre d'eau, normalement, elle devrait couler. En revanche, si vous étalez cette même pâte à modeler, si vous lui donnez la forme d'une planche et que vous la replongez dans le verre d'eau, là, elle devrait flotter, car la surface au contact de l'eau est plus grande et donc la fameuse poussée d'Archimède plus importante. Conclusion, un même objet faisant le même poids mais n'ayant pas la même forme peut soit couler, soit flotter. Quand vous faites la planche et que vous vous étalez de tout votre long dans la piscine ou dans la mer, vous restez à la surface. Quand vous mettez en boule, ça marche beaucoup moins bien. Tout n'est donc qu'à faire que de masse volumique, le rapport entre le poids de l'objet et son volume. Et le plus formidable dans tout ça, c'est que certains, des ingénieurs notamment, sont passionnés par toutes ces histoires de flottabilité. On n'a donc qu'à se laisser porter par tous leurs savants calculs, preuve que finalement, nous, on n'a rien à faire, les choses ne sont pas si mal faites.
Ouais, nous avons la réponse, Cyprien. Sini nous éclaire pendant les vacances avec les pourquoi de l'été sur RTL. Anthony, le ciel, ça flotte justement.
Bah oui, effectivement, on retrouve ces pluies actuellement entre la Bretagne, les Pays de la Loire jusqu'à la Touraine et à l'Orléanais. Elles vont gagner l'Île-de-France dans quelques heures, puis les Hauts-de-France et le Grand Est. Après la pluie, nous aurons des averses orageuses en cours d'après-midi avec de très rares éclaircies. Éclaircies peut-être un peu plus nombreuses en fin de journée vers la Bretagne et le Cotentin. Et puis partout ailleurs, alternance de nuages et tantôt d'éclaircies, surtout donc entre la Gironde et le Massif central, un peu moins entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Alsace, et puis évidemment entre la vallée du Rhône, l'Occitanie et la Méditerranée, vous aurez du soleil toute la journée. Les températures encore un peu fraîches, très fraîche même dans le nord, avec seulement 20 degrés à Brest, 22 à Paris et Lille au meilleur de la journée. Vous aurez 23 à Bordeaux, Tarbes et Biarritz, 24 à Dijon, 26 à Strasbourg et toujours le bonheur dans le sud-est avec 30 à Marseille, 31 à Ajaccio et 32 à Nîmes.
À part le sud-est, on est quand même dans un terrible cauchemar, cette histoire. On va se réveiller un jour, c'est promis. Bienvenue tout le monde, c'est RTL, il est 8h du matin.
RTL Matin, Stéphane Carpentier.
8h, Alexandre de Saint-Aignan pour toute l'actualité de ce 27 juillet. Bonjour Alexandre.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
À la une, un incendie tellement gigantesque en Californie qu'il crée désormais son propre climat.
Il provoque des orages, de la foudre et des vents violents qui alimentent le brasier. Le pass sanitaire au plus tôt à partir du 5 août, indispensable notamment pour rentrer dans les hôpitaux ou les maisons de retraite. Dans ce journal également, les mauvais chiffres des commerçants parisiens. Deux femmes pasteurs mariées par l'église, c'est une première. Et puis les résultats des JO en direct depuis Tokyo, la judoka Clarisse Agbegnénou en très grande forme pour ses premiers pas dans la compétition.
RTL Matin.
comme un avant-goût de l'enfer en Californie. Avec le réchauffement de la planète, les incendies sont chaque année plus violents, plus incontrôlables. Un brasier tellement brûlant qu'il est désormais capable de provoquer lui-même des phénomènes climatiques et météorologiques, Karine Oten.
Oui, la Californie est entrée dans un cercle vicieux cet été. À cause du changement climatique, elle souffre de conditions de sécheresse alarmantes et de vagues de chaleur régulières. Ajoutez à cela des vents violents qui soufflent en continu et vous ne serez presque pas étonné d'apprendre qu'un incendie a brûlé l'équivalent de la surface de la ville de Chicago en 10 jours à peine. Mais surtout, ce feu a tellement grossi qu'il a créé lui-même des nuages d'un genre spécial, des pyrocumulus, des nuages chauds, instables, qui à leur tour génèrent foudre et vent. Des éclairs se forment sous les flammes, un mélange détonant qui ne fait du coup que continuer à nourrir l'incendie, vous imaginez bien, et cela rend le travail des 5400 pompiers mobilisés bien plus difficile. Les experts prédisent que la Californie est partie pour battre son triste record de l'an dernier.
Karine Oten aux États-Unis pour RTL. Incendies, inondations, alors que les déluges ravagent le monde ces dernières semaines. Les experts du GIEC planchent actuellement sur leur prochain rapport. Il doit mettre à jour les prévisions climatiques, hausse de la température mondiale, augmentation du niveau des océans, intensification des événements extrêmes. Les conclusions sont attendues pour le 9 août prochain, dans 15 jours.
À 8h02, on en vient au virus avec l'extension du pass sanitaire bientôt devant le Conseil constitutionnel.
Les sages vont décider le 5 août prochain s'il valide ou non le projet de loi voté par le Parlement. Ce n'est qu'à partir de cette date, théoriquement, que le pass pourrait être réclamé dans les restaurants, les hôpitaux ou certains centres commerciaux. L'opposition avait tenté d'empêcher son extension aux maisons de retraite sans succès. Les visiteurs devront pouvoir prouver qu'ils sont vaccinés ou testés négatifs avant de rentrer. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Vincent Serrano, vous l'avez constaté dans un EHPAD de Meudon, en région parisienne.
Où la majorité des résidents est en pleine partie de Trivial Poursuite. Mais en traversant les longs couloirs roses et beiges de cet établissement, on s'est arrêté pour frapper à quelques portes, comme celle où vous vous trouvez. Chantal, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette obligation de passe sanitaire?
Bah écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les visiteurs. D'ailleurs, j'avais pris le mien, il est dans mon sac. Bah, c'est une question de sécurité, parce qu'en fin de compte, je risque moins de la contaminer, et puis voilà quoi.
Mais pour d'autres familles de résidents, d'autres visiteurs, l'accueil de ce passe sanitaire est un peu plus contrasté.
Ben non, c'est un peu précipité. Si par hasard elles sont sourdes, on peut même plus les avoir par téléphone, assez dramatique.
Bon, maintenant, c'est la loi. On va s'y plier, bien sûr, mais je trouve ça quand même assez dur. Si vous voulez.
On va poser aussi la question aux soignants.
C'est nous qui sommes obligés de faire les gendarmes dans les chambres ou dans l'établissement, parce que dès qu'on n'est plus là, ils enlèvent le masque. Ça paraît compliqué. Hein. Est-ce que tout le monde va vouloir respecter ça, vouloir le faire? Moi, je pense que ça commence à être dur. Et puis, moi, personnellement, je ne me vois pas faire le gendarme à l'entrée de la maison de retraite pour dire rentrez ou rentrez pas.
Alors, pour la rassurer, elle et ses collègues, la directrice de la maison de retraite a déjà prévu dès le début de la semaine prochaine un renfort à l'accueil pour contrôler les passes sanitaires.
Le reportage de Vincent Serrano à Meudon pour RTL.
À Paris, victime de la crise sanitaire, de nombreux commerçants risquent de mettre la clé sous la porte.
Entre l'absence de touristes et des franciliens qui ne se déplacent plus jusqu'au centre de la capitale, ils affichent un chiffre d'affaires en baisse de 21% quand le reste de la France s'en sort beaucoup mieux. Thierry Véron, président de la Fédération des associations de commerçants et artisans parisiens.
La situation parisienne est dramatique, est catastrophique. Les soldes ne marchent pas comme on l'entend. Les touristes étrangers viennent pas, ils sont encore très frileux avec le Covid. Concernant nos clients franciliens qui peuvent venir en voiture, ils sont bloqués aux portes de Paris. On ne veut plus de voiture, donc on met tous les effets sur le vélo. Si on veut beaucoup moins de voitures, il faut qu'on mette les infrastructures nécessaires aux portes de Paris ou aux portes de la région, construire des parkings. Si on n'a plus de mobilité, on n'aura plus d'attractivité commerciale. La situation est très compliquée. Si les boutiques n'arrivent pas à passer l'été, elles vont déposer le bilan.
Des propos recueillis par Nerissa Emani pour RTL. Priorité, sécurité. Le Premier ministre annonce une hausse du budget pour le ministère de l'Intérieur l'an prochain. 900 millions d'euros supplémentaires. 885 nouveaux postes de policiers doivent être créés en 2022. Emmanuel Macron avait promis de créer 10 000 postes de policiers et de gendarmes durant son quinquennat. La promesse sera tenue, affirme Jean Castex.
Bon réveil à vous tous, 8h05. Alexandre de Saint-Aignan revient dans un instant pour vous informer. Avec une première en France, deux femmes pasteurs se sont dit oui, bénis par l'Église. À tout de suite.
RTL Matin.
La suite du journal d'Alexandre de Saint-Aignan avec une cérémonie hautement symbolique pour l'église protestante. C'était le week-end dernier à Montpellier.
Le premier mariage de pasteurs lesbiennes. Une bénédiction rendue possible par le synode depuis 2015. Une étape importante et pas seulement pour ces deux femmes, Sinamir.
Quand Jésus dit oui, nul ne peut dire non. C'est sur ces paroles que cette cérémonie à la saveur si particulière s'est achevée samedi dernier à Montpellier.
Ce moment, il représentait d'abord la bénédiction de notre mariage avant le symbole. Il était bien plus merveilleux qu'on s'autorisait à le penser.
Et comme dans la chanson, nul ne l'a dit non. Emeline Daudet, ancienne ingénieure, aujourd'hui pasteur. Agnès Kaufmann, ancienne graphiste, également en charge d'un ministère depuis peu, ont donc pu savourer, au milieu de leurs fidèles, ce moment tant préparé.
Vraiment, on l'a vécu là aussi comme une bénédiction d'être entouré d'autant de personnes, puisque les portes du temple étaient ouvertes. Et tous nos paroissiens et paroissiennes étaient aussi invités, au-delà de nos invités de la fête du soir.
Et c'est en costume bleu et non pas en robe blanche qu'ils ont vu sortir les deux pasteurs sur le parvis du temple de Maguelone.
Et puis d'ailleurs, on n'aime pas beaucoup porter des robes.
Un des petits détails qu'avaient souhaité glisser Emeline et Agnès dans cette cérémonie protestante traditionnelle.
Et pareil, on n'a pas eu d'entrée de nos pères. Et puis si le père accompagnait l'une, il donnerait à qui? Parce que dans ces cas-là, il faudrait deux. Enfin, c'était illogique de faire ça. Donc, comme on aime bien le dire, on a queeré finalement le culte. On a tordu les choses pour que ce soit adapté à nous et puis adaptable aussi, quel que soit le genre des mariés finalement. Et
Jean-François Brenne, qui a présidé la bénédiction, a aussi changé quelques références.
Ah ben, réécrire les textes, voilà. On fait référence habituellement à Adam et Ève, l'homme et la femme. Bon ben là, il a fallu trouver une autre référence biblique pour dire ces mêmes fondamentaux. Voilà.
Ceux de l'amour dans le cadre de la foi, même pour un couple de même sexe, un geste d'ouverture très important pour ce pasteur protestant.
Moi, je me souviens d'un des mariages que j'ai présidé, là, il y a quelques années, deux hommes qui vivaient en couple depuis près de 30 ans. Bon, là, c'est deux jeunes femmes, deux jeunes collègues, mais voilà, derrière elles, il y a toutes ces histoires, et parfois des histoires un peu tragiques. Tous ces collègues homosexuels qui ont vécu dans la clandestinité pendant des années, des décennies. Il ne faut pas oublier tout ça.
Avec le seul souhait d'ouvrir un petit peu plus le débat, sans en faire une obligation, toute la démarche d'Emeline et Agnès par leurs gestes.
Voilà une cérémonie historique et des témoignages recueillis par Sinamir pour RTL.
Dans l'actualité, il y a également Emmanuel Macron qui poursuit sa visite en Polynésie française.
C'est dans cet archipel paradisiaque que la France avait mené des essais nucléaires de 1966 jusqu'en 1996. De nombreux habitants espèrent que le chef de l'État fera un geste pour reconnaître la souffrance des victimes. Sur place pour RTL, Jacques Serret.
Béatrice, 44 ans, a perdu ses deux parents d'un cancer. Sa mère d'une leucémie, son père d'une tumeur au pancréas. Elle-même a dû affronter la maladie.
Oui, j'ai développé une leucémie myéloïde chronique à un mois de grossesse, c'est-à-dire en 2011.
Et si aujourd'hui elle en sort tout juste?
Depuis deux mois, je suis en rémission moléculaire, c'est-à-dire que j'arrête mes médicaments, mais c'est une chance sur deux.
Elle s'inquiète pour les générations futures.
On a peur pour notre fils, il a quatre grands-parents cancéreux, maladie radio-induite.
Car cela ne fait aucun doute à ses yeux, toutes ces maladies sont radio-induites. Autrement dit, les conséquences sanitaires à long terme des essais nucléaires opérés par la France en Polynésie. Le père Auguste Webe Carlson est le président de l'association 193 en référence au nombre de bombes atomiques explosées dans l'archipel.
C'est une histoire dramatique qu'il ne faut pas oublier et donc on espère une demande de pardon sincère de la part du président et également que l'État vis-à-vis des victimes des essais nucléaires reconnaisse facilement parce que c'est vraiment la croix et la bannière pour pouvoir déclarer, apporter tous les documents justificatifs et c'est pas évident pour toutes les victimes.
Des victimes dont certaines sont toujours dans l'attente d'indemnisation de l'État français.
Jacques Serret en Polynésie française pour RTL.
Quatrième jour de compétition à Tokyo.
RTL à Tokyo.
Une déception en basket. Hein. En revanche, il y a de l'espoir pour le judo français.
Et on retrouve Isabelle Langer sur place pour RTL. C'est le grand jour pour Clarisse Agbeniénou, la française qualifiée pour les demi-finales en moins de 63 kilos.
Attention,
Exactement, et pour aller au bout de son rêve, la numéro 1 mondiale devra d'abord battre la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard ce matin pour ses deux premiers combats. Clarisse n'a pas tremblé, elle s'est montrée solide, déterminée. Victoire express en 19 secondes sur Ippon face à la Capverdienne Sandrine Billet, puis une victoire sur Ouazahari contre la coriace néerlandaise Jules Frenzen. Ça fait 5 ans que Clarisse Agbenienou mange, dort, s'entraîne pour une seule chose, ce Graal olympique. Seule médaille d'or qui manque à son prestigieux palmarès, déjà lourd de 5 couronnes mondiales et continentales. Pourtant, Niu Niu, la tigresse, comme la surnomme ses copines, a bien failli tout plaquer l'an passé lors du premier confinement et le report des Jeux. C'est sur l'île de La Réunion qu'elle a évacué son mal-être, accompagnée de ses proches. Elle s'est aussi investie dans ses études de coach de vie à HEC, a diversifié ses entraînements en y intégrant la boxe, le jujitsu et le yoga. Aujourd'hui, elle veut prouver au monde entier qu'elle, la prématurée dont les parents ne savaient pas si elle allait vivre, eh bien, elle est la reine de sa catégorie. Ce soir, Clarisse Agbenienou veut monter sur la plus haute marche du podium et faire retentir la Marseillaise au Nippon Budokan, le temple du judo.
Et on suivra ça avec vous, Isabelle Langer, envoyée spéciale à Tokyo pour RTL. Alors, pas encore de nouvelles médailles pour la France, mais la journée n'est pas encore terminée. On fait le point sur les épreuves en cours avec vous. Quentin Vasselin, c'est terminé pour Naomi Osaka. Il n'y aura pas de médaille pour la championne japonaise de tennis.
Oui, la défaite 6-1, 6-4 en huitième de finale contre Vondroušová. Le monde n'avait Dieu que pour elle lors de la cérémonie d'ouverture. On rappelle qu'Osaka avait allumé la flamme olympique. Toujours en tennis, c'est pour Jérémy Chardy. Cette fois, il affronte en ce moment Karatsev. Il y mène 1-7-0, mais est mené 5-3 dans la deuxième manche. On part tout de suite sur le VTT puisque c'est l'événement du moment. Loana Lecomte et Pauline Ferrand-Prévot sont en piste et c'est dommage puisque Pauline Ferrand-Prévot était en tête mais elle vient de chuter, elle a rétrogradé à la sixième place. Loana Lecomte, elle, est pour le moment quatrième au pied du podium. C'est la Suissesse Yolanda Neff qui mène cette course. En basket, défaite d'entrée des Françaises contre le Japon, le score 74-70. Et en taekwondo, la belle surprise, 67 kilos femmes, quart de finale d'Altea Lorrain contre la chinoise Shu Yin, championne olympique en 2016 à Rio, eh bien, elle s'est imposée, la française, 14-6 dans le taekwondo. Elle est donc en demi-finale, une chance de médaille de plus. La fin de matinée va être agitée, messieurs.
Merci beaucoup, vous savez tout. Merci Quentin Vasselin.
Les Jeux Olympiques, évidemment, de Tokyo, c'est sur RTL. Merci Alexandre, à tout à l'heure, 9h. Vous avez l'appli RTL à disposition. Et ce soir, on refait les Jeux, 18h30, 19h.
Dans les pas de l'empereur. Samuel Goldschmidt sur RTL.
C'est tous les mardis de l'été, nous sommes en effet sur les pas de l'empereur avec Samuel en cette année 2021. C'est le bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. Nous prolongeons donc notre excursion dans les hauts lieux de l'épopée, une incursion dans le passé. Troisième étape aujourd'hui, au-delà de nos frontières, cap à l'est, Samuel.
Ils partent le 29 août 1805 du camp de Boulogne-sur-Mer quand l'Autriche et la Russie se coalisent contre la France. 200 000 hommes, 7 corps d'armée, 1400 km à pied, en se donnant du courage avec peu.
Un seul oignon, fait la ville, un seul oignon, nous changeons. Un seul oignon, fait la ville, un seul oignon, nous changeons.
En trois mois de marches et de batailles, la grande armée arrive à Brno, dans l'actuelle République tchèque. C'est dans les collines verdoyantes de sa banlieue est qu'aura lieu le lundi 2 décembre 1805
Bitva tři císařů.
La bataille des trois empereurs. Jana Amadou est historienne et guide sur le plus vaste site des conflits napoléoniens.
On est sur le but du Jura. En fait, du compte, c'est un tumulus artificiel. C'était son poste de commandement. Ici, Napoléon avait une bonne visibilité sur une grande partie du champ de bataille. Et c'est ici qu'il a vu le fameux soleil d'Austerlitz se lever.
En face, une colline plus haute que les autres, le fameux plateau de Pratzen que décrit André Bouček du mémorial de Pratché.
Odsud z Prateckého návrší vidíme až na Brno, což je 10 km vzdušnou čarou.
En 1805, il n'y avait pas d'arbres. Donc on avait vraiment une très bonne visibilité.
Et Brno est
à 10 km.
Le reste est enseigné depuis 200 ans dans les académies militaires. Napoléon, qui abandonne ce plateau aux ennemis, cache ses hommes dans le brouillard au pied de la colline, lance l'attaque et coupe les unités ennemies par le flanc.
On va le faire, c'est le flanc. En plein flanc, Dieu le flanc, Dieu le flanc. On va le faire, c'est le flanc. nous allons rire.
François Houtzek est historien à la Fondation Napoléon.
Les soldats sont pour la plupart aguerris. Ils ont une confiance déjà extrême en Napoléon. Tout le monde était surentraîné, en fait, connaissait parfaitement les tactiques, parfaitement les déplacements, les manœuvres, etc. Donc tout s'est passé parce que aussi, ben, on a des soldats qui sont au meilleur de leur forme. C'est le meilleur outil militaire que la France n'ait jamais eu.
Avec du matériel pourtant peu moderne, le fusil Gribeauval de 1777 est une tannée à recharger par l'avant du canon, comme le montre le reconstitueur Arnaud Springuel.
Pour un chargement en 12 temps, chargez, déchirez, bouge, bourrez, remettez, guette, joue, feu.
Mais la Grande Armée est un orchestre dont tous les solistes excellent dans leur partition. Napoléon lui-même pourra raconter dans son bulletin, se croyant attaquant et se voyant attaqué, l'ennemi s'est regardé comme à demi battu. Le tsar Alexandre Ier, hagard, a fui depuis longtemps quand l'empereur François Ier d'Autriche reste dignement pour contempler le désastre coalisé et la victoire de ce Français. Le plus fort, c'est qu'aucun coup de feu n'a été tiré dans le village au magnifique château baroque où Napoléon se repose après les combats.
En Tchèque, c'est Slavkov, mais à Slavkov, à Austerlitz, il n'y avait pas de combat. Et Napoléon y est allé après la bataille victorieuse. L'empereur réfléchissait quel nom donner à cette bataille. Alors, il a choisi juste ce château. Et voilà, c'est comme ça il a décidé de nommer cette bataille la bataille d'Austerlitz.
Grâce à ce triomphe, Napoléon va démanteler l'Autriche, redessiner entièrement le continent. En Angleterre, l'ancien Premier ministre William Pitt, qui a financé ce désastre en sous-main, demande à son valet de décrocher la carte d'Europe de son bureau. Roulez-la, elle ne servira plus pendant les 10 prochaines années.
Sur les pas de l'empereur, passionnante leçon d'histoire en cette année 2021, bicentenaire de la mort de Napoléon Bonaparte. C'est signé Samuel Goldschmidt, c'est un véritable régal. 8h18, vous restez bien là, dans un instant on va parler vaccin, vaccination anti-Covid-19, passe sanitaire, ça fait débat, isolement des malades. Le directeur général de l'assurance maladie, la CNAM, est en direct et en studio avec nous juste après ceci.
RTL pour analyser l'enfer. RTL Matin jusqu'à 9h15 avec Stéphane Carpentier.
Merci d'être avec nous, il est 8h19 en ce mardi au cœur de cet été du vaccin avec cette vaccination anti-Covid-19, ce pass sanitaire qui fait débat, l'isolement des malades, quatre lettres majuscules reviennent en boucle au centre de tout cela, celle de la CNAM en première ligne. On en parle ce matin avec Thomas Fatome, bonjour à vous.
Bonjour.
Directeur général de l'assurance maladie, d'abord un chiffre. 40, la barre des 40 millions de primo-vaccinés qui a été franchie hier. Le prochain objectif, 50 millions à la fin du mois d'août. L'objectif, c'est convaincre encore et toujours.
Bien sûr, convaincre toujours. On a vu une accélération très forte suite aux annonces du président de la République. Et puis, il y a plus de doses, il y a plus de créneaux. Donc, si vous regardez, je regardais ce matin avant de venir, il y a des créneaux disponibles dans différents départements. Donc, il faut y aller, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre la rentrée. Et peut-être aussi convaincre votre famille, vos collègues de boulot, vos cousins, vos voisins, il faut se vacciner maintenant.
Il y a aujourd'hui des récalcitrants. Comment allez-vous faire à la CNAM pour convaincre les derniers récalcitrants, et notamment les personnes dites à risque de se faire vacciner ?
Différents leviers qu'on va activer. D'abord, évidemment, le premier levier, c'est celui des professionnels de santé, des médecins traitants, notamment des pharmaciens, des infirmiers. Vous savez qu'on a envoyé cette liste de patients non vaccinés aux médecins traitants. Mmh. Ils savent maintenant, dans leur patientèle, qui est vacciné, qui l'est pas, et ça leur permet du coup de rebondir, de dialoguer. On travaille aussi avec les pharmaciens, qui sont évidemment des acteurs de proximité. Quand ils délivrent des médicaments, ils savent du coup quel traitement les personnes ont. Est-ce qu'ils ont du diabète? Est-ce qu'ils ont de l'hypertension? Ils peuvent leur poser la question. On leur a fourni des petits flyers, des documents pédagogiques. Voilà, donc c'est le premier partenariat. Et puis le deuxième, c'est que nous, on a aussi des médecins, on a des médecins conseils. Et donc à partir de cette semaine, ils vont appeler systématiquement les malades chroniques les plus à risque. À peu près 300 000 malades chroniques qui ne sont pas encore vaccinés, qui ont vraiment des niveaux de risque élevés. Et comme c'est des médecins aussi, ils vont avoir ce dialogue un peu médical et de leur déconseiller, peut-être aussi de leur parler avec leur médecin traitant. Donc on actionne tous les leviers possibles. On a aussi beaucoup d'actions de terrain, on pourra y revenir vis-à-vis notamment des personnes précaires.
On va y revenir. Je reviens justement à ce que vous nous disiez, vous envoyez des listes aux médecins. Il y a une question toute bête qui m'arrive là, mais le médecin, il est obligé de le faire ?
Non, bien sûr. On n'oblige personne. On n'oblige pas les gens à se faire vacciner, mis à part ceux qui sont concernés par l'obligation vaccinale. Et les médecins traitants, nous, ce qu'on veut, c'est les accompagner, les aider. Ils peuvent d'ores et déjà aujourd'hui aller regarder dans le vaccin Covid, ils ont des accès pour regarder si leur tel ou tel patient. Mais c'est compliqué, ça leur prend du temps. Donc on leur a dit...
Ils jouent le jeu, aujourd'hui vous avez des remontées, ils jouent le jeu
aujourd'hui, plutôt. Alors c'est pour ça qu'on va relancer cette semaine, on a à peu près 4000 médecins traitants qui ont demandé cette liste. Donc on pense qu'on peut aller plus loin. Donc dès cette semaine, nos délégués de l'assurance maladie vont rappeler les médecins traitants pour leur dire « N'oubliez pas que vous avez accès à cette liste ». Je ne rentre pas dans la technique, mais en plus on va faire évoluer le système pour que ça soit encore plus simple sur leur logiciel métier, ils vont pouvoir y accéder facilement. Et voilà, leur dire, vous pouvez y aller. Ils peuvent aussi bénéficier de commandes maintenant de vous savez, de vaccins Moderna, pour ceux qui vaccinent. Ils peuvent aussi facilement, on va les accompagner là-dessus aussi, prendre des rendez-vous dans les centres de vaccination, leur donner accès au numéro coup de fil. Donc notre rôle, c'est pas de évidemment pas de les contraindre, mais de les aider dans leur pratique quotidienne. Les médecins, ce qu'ils veulent, c'est soigner, accompagner les malades, pas faire de l'administration, et on est là pour les aider.
Et est-ce qu'on peut imaginer, vu le contexte du moment, qu'il y a des médecins qui disent à leurs patients de ne pas se faire vacciner? Ça peut exister, ça? Et est-ce que c'est sanctionnable?
Écoutez, je crains qu'il existe des médecins qui sont pas à l'aise, on va dire ça comme ça, avec la vaccination. Je crois que l'immense majorité des médecins, l'immense majorité des professionnels de santé sont des formidables porteurs de la vaccination et accompagnent leurs patients. Et si on a aujourd'hui près de 3/4 des patients qui ont une maladie chronique qui sont vaccinés, donc à un niveau bien plus élevé que la population générale, c'est que les professionnels de santé, et notamment les médecins traitants, ils ont joué ce rôle depuis 6 mois au quotidien. Quand ils voient leur malade chronique, ils leur disent « allez vous faire vacciner » ou « moi je peux vous faire vacciner ».
Thomas Fatome, directeur général de l'assurance maladie de la CNAM, la vaccination obligatoire pour les soignants, c'est le choix du gouvernement. Est-ce que vous iriez plus loin pour une vaccination pour tout le monde ?
Écoutez, je crois déjà que le débat parlementaire a montré que c'était des sujets sensibles et que déjà, l'ambition du gouvernement avec cette obligation vaccinale pour les soignants et le pass sanitaire, c'était déjà un paquet très incitatif et je crois très dynamique. Et on voit bien que d'ailleurs que ça pousse aux gens hésitants à y aller. Et puis que, grosso modo aussi, le directeur général de la PHP le disait la semaine dernière, il voit dans ses équipes que le taux de personnes vaccinées monte. Donc je pense qu'il y avait besoin, j'ai parlé aussi il y a une dizaine de jours d'un électrochoc. Il y avait besoin de cet électrochoc et je crois que le paquet, il est déjà assez significatif.
Assez conséquent, mais on reste quand même assez prudent. Dès qu'on dit vaccination pour tous, il y a une prudence et votre réponse l'illustre parfaitement ce matin.
Je crois, honnêtement, il n'y a pas d'hésitation. La meilleure arme contre la Covid, il faut revenir au basique, c'est la vaccination.
Et maintenant, il ne faut pas attendre la rentrée,
Encore une fois, il y a des créneaux disponibles, il y a eu beaucoup de doses, donc c'est maintenant qu'il faut y aller, tout a été assoupli, vous pouvez faire votre deuxième dose au bout de 3 semaines, vous pouvez la faire dans un autre centre de vaccination, donc les souplesses sont là.
Est-ce que ça vous inquiète les manifestations des anti-vaccins qui ont rassemblé le week-end dernier plus de monde que le week-end d'avant ?
Écoutez, il y a une liberté de manifester, il y a une liberté de croyance et de penser dans ce pays, heureusement. Après, je préfère regarder les chiffres de vaccination. On a fait des journées à plus de 800 000 vaccinations, des prises de rendez-vous qui explosent, et c'est ça qui montre la dynamique. Je crois que c'est plus important que les manifestations du samedi.
Ces gens-là qui manifestent, ils ne sont pas rassurés face au vaccin. Est-ce qu'on doit envisager aujourd'hui de faire plus de pédagogie, d'expliquer encore plus clairement les choses ?
Écoutez, nous, en tout cas, l'assurance maladie, elle est hyper mobilisée sur cette information. Sur amélie.fr, on a des niveaux de consultation de nos sites qui ont battu des records. On a beaucoup d'appels sur le 3646. On a les forums Amélie également. Donc à chaque fois, nous, on porte l'information, on la porte la façon la plus neutre possible. Et comme je vous le disais aussi, les médecins, les pharmaciens, les infirmiers, au quotidien, c'est aussi des acteurs de la vaccination. Donc c'est eux qui sont au front pour convaincre.
Autre sujet qui fâche Thomas Fatome, c'est les fausses attestations de vaccination qui commencent à circuler, dont certains font un véritable trafic. On l'a entendu régulièrement sur notre antenne. Quels outils vous mettez en place, vous allez mettre en place pour faire face à tout ça, si vous le pouvez ?
Alors d'abord, peut-être partager avec vous que c'est un acte grave de faire des fausses attestations. Très grave. On parle de faux et usage de faux. C'est un délit pénal. Et puis aussi, c'est en termes de santé publique très grave. Ça veut dire que vous vous exposez, ça veut dire que vous exposez vos proches à la contamination. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Et l'assurance maladie est aux côtés des services de police, des services de justice pour pouvoir traquer entre guillemets ces fausses attestations. Il y a des mises en examen qui sont en train de tomber, vous avez vu la semaine dernière, il y a des condamnations également. On est saisi de plus en plus de requêtes judiciaires, justement, les services de justice nous demandent des informations. Et nous, on est en train également de resserrer les mailles du filet, si j'ose dire, finalement interroger nos bases de données, tout simplement, aller regarder ce que les spécialistes de la lutte contre la fraude appellent des atypies. On voit qu'il y a des, finalement, dans vaccin Covid, il y a des modes d'utilisation du SI qui montrent qu'il y a manifestement des choses frauduleuses et qui peuvent déclencher derrière des enquêtes. Donc véritablement, 99,9% des gens qui utilisent vaccin Covid, qui font des attestations, le font évidemment de façon tout à fait honnête. Il y a une petite part, ils doivent savoir que ça peut leur coûter très cher.
Expliquez-nous les choses, comment vont se passer les contrôles des personnes testées positives et soumises à un isolement obligatoire de 10 jours? C'est sous votre responsabilité depuis dimanche, depuis la loi adoptée, validée par les sénateurs et les députés. Ça devait être les policiers, c'est vous finalement.
Alors ça va se faire en deux temps. Mmh. Ce que le projet de loi finalement qui est sorti du Parlement prévoit, c'est un tout petit peu différent de ce qui avait été prévu initialement. Et on verra aussi l'avis du Conseil constitutionnel qui se positionnera la semaine prochaine, c'est que l'assurance maladie, elle va repérer les manquements à l'isolement ou les suspicions de manquement. Elle va transmettre cette information à l'Agence régionale de santé. Et ensuite, les contrôles, éventuellement à domicile, seront faits par les forces de sécurité intérieure, par les policiers ou par les gendarmes. Donc, ce n'est pas l'assurance maladie qui va faire le contrôle elle-même. Elle va signaler.
D'accord.
Tout simplement, je prends un exemple. Il y a des personnes, on essaie de les appeler une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, et ça ne répond jamais. Donc ça... Évidemment, c'est une suspicion très simple de non-respect d'isolement. Il y a des gens très très minoritaires aussi qui peuvent nous dire directement dans l'appel du traceur vis-à-vis de la personne positive, moi je veux pas m'isoler. Bon voilà, si, des cas comme ça, eh bien on va les transmettre
donc
à l'agence régionale.
Vous vérifiez à distance, c'est pas physique. Physiquement,
exactement.
Ce sont les forces de l'ordre.
Tout à fait.
Voilà la situation. Merci de nous avoir éclairé, accompagné ce matin. Merci. Thomas Fatone, directeur général de l'assurance maladie, alors qu'on a franchi hier la barre des 40 millions de primo vaccinés dans notre pays. 8h28, dans un instant, les grosses têtes et puis le ciel.
RTL Matin jusqu'à 9h15
avec Stéphane Carpentier. FR.
RTL, toujours avec vous.
Et toujours avec vous les grosses têtes de Laurent Ruquier pour le meilleur de la saison. Le rendez-vous c'est 15h30 cet après-midi avec notamment le cheval de Monsieur Bernard.
Comment s'appelle votre cheval, vous, monsieur Mabille?
Mort. Écrasé.
Rap-tap-tap.
Le pauvre, tu lui montes pas dessus quand même, parce qu'il va avoir une scoliose.
Viens ici, rap-tap-tap.
C'était un cheval, il est monté dessus, c'était un poney. Hein. Les pattes se sont enfoncées dans le sol.
Non, mais je suis monté
Bernard,
sur
c'est le seul qui fait du cheval et des patins à roulettes en même temps.
Mais le cheval monte sur Bernard. Hein.
Je suis monté sur mon cheval 2 minutes et demie et je suis redescendu tellement j'ai eu peur. C'est très haut.
C'est
ah,
vrai
ouais. Ah oui.
Comment il s'appelle votre cheval alors?
Ah bah il
aplati.
Ravioli maintenant. Je l'ai vendu en faisant croire que c'était de la viande de bœuf. Les lasagnes, je crois qu'il est bon.
Laurent Ruquier pour le meilleur et pour le rire, les grosses têtes avec deux options, soit RTL 15h30 18h, soit le podcast sur l'appli RTL, ou alors les deux, tout est possible, tout est permis, un peu comme dans le ciel, Anthony, quoi. Tout
ouais,
est
exactement
possible.
Avec ouais. Ce matin une perturbation automnale, des giboulées de Mars dans l'après-midi et des températures de début juin et encore. Voilà le programme de la journée avec donc ces pluies qui abordent le nord-ouest du pays. On les retrouve actuellement entre la Bretagne, les Pays de la Loire et l'ouest de l'Île-de-France. Elles vont s'étendre jusqu'au Grand Est et jusqu'au Hauts-de-France. Ensuite les averses vont prendre le relais avec un caractère orageux et des rafales de vent. Mais à l'avant, entre la Gironde, le Massif central, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Alsace, vous aurez de belles éclaircies, en tout cas majoritairement. On ne pourra pas exclure une averse. Et puis le temps restera sec et très très ensoleillé entre l'Occitanie, la vallée du Rhône et la Méditerranée. Et puis attention, on aura aussi un peu d'instabilité dans l'après-midi sur les Pyrénées, prémisse d'une dégradation orageuse pour cette nuit. Les températures, toujours la fraîcheur, sauf dans le sud-est, avec 20 degrés à Brest cet après-midi, 21 à La Rochelle et Orléans, 22 à Paris et Lille, 23 pour Bordeaux et pour Reims, 24 degrés à Dijon et Besançon, 26 du côté de Strasbourg ou encore de Mulhouse. Vous aurez 27 à Nice, 28 à Toulouse, 29 degrés pour Grenoble et pour Toulon, et puis la chaleur à Marseille, 30 degrés, en Corse également, 31 degrés, et à Nîmes aussi, avec ouais. 32 degrés.
32 degrés, le rêve absolu dans le sud-est du territoire. Demain, c'est promis, c'est sec.
Demain, c'est sec.
Voilà. Partout.
Presque partout, sauf près de la Manche.
C'est déjà pas mal. 8h32.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Hortense Crépin, s'il vous plaît, pour les essentiels de l'actualité.
Alors que le pays vise désormais les 50 millions de primo-vaccinés avant la fin de l'été, le nombre d'hospitalisations dépasse le seuil des 7000. C'est tous ensemble que nous vaincrons le virus. On continue, déclare Emmanuel Macron sur Twitter. Le président qui continue sa visite en Polynésie, il est notamment attendu sur la question des essais nucléaires réalisés pendant 30 ans sur place par la France. Le chef de l'État qui cumule actuellement 39% d'opinions favorables à moins d'un an de de la présidentielle. Un chiffre identique à celui du début de la crise, expliqué tout à l'heure sur RTL. Christelle Craplet, la directrice d'études à l'Institut de sondage BVA Opinion. La présidentielle, justement, et cette nouvelle candidature à droite, celle du médecin et maire de la Garenne-Colombes, Philippe Juvin, qui annonce qu'il passera par la primaire prévue par les Républicains. Un entretien inédit depuis 11 ans en Côte d'Ivoire. Le président Ouattara reçoit son ancien rival et prédécesseur Laurent Gbagbo. Il avait refusé de reconnaître sa défaite en 2010. À Tokyo, un bilan en demi-teinte au JO cette nuit. Pas de finale en 200 mètres nage libre pour Charlotte Bonnet. Défaite des basketteuses pour leur entrée en lice dans les Jeux face au Japon, 74 à 70. Et en VTT, c'est en cours depuis maintenant une demi-heure chez les filles avec deux chances de médaille, Nicolas Burnand.
Ouais, ça se passe pas trop mal pour les Françaises. Pour l'instant, c'est la Suisse Yolanda Neff qui est en tête. Et Pauline Ferrand-Prévot est deuxième. Alors, elle a fait un excellent, elle a fait un assez bon départ, mais elle est surtout tombée au premier tour de son vélo. Le sol était extrêmement glissant. Elle a perdu une trentaine de secondes. La Française qui a été championne du monde sur route, en cyclocross, en VTT, qui a tout gagné. Il lui manque que ce titre olympique. Ça va être compliqué pour elle, mais elle tient le cap. Et puis Loana Lecomte, elle a fait un excellent départ. Elle est partie en premier, mais elle est pour l'instant sixième, la Savoyarde de 21 ans qui a remporté les quatre épreuves de la Coupe du Monde de VTT en ce début de saison, la favorite, mais qui est en difficulté.
Nicolas Burnand, envoyé spécial de RTL à Tokyo. Et puis la meilleure nouvelle de cette matinée, c'est le combat vers 10h25 de notre porte-drapeau. Clarisse Agbegnénou, celle qui vise un premier titre olympique, a ajouté à ses 5 couronnes mondiales, va affronter chez les moins de 63 kilos la Canadienne Catherine Beauchemin-Pinard. Enfin, le rendez-vous ce soir à 18h30, on refait les jeux avec nos envoyés spéciaux et également Marie Portolano et Jean-Michel Rascol.
Absolument, 18h30, 19h, soyez à l'écoute, il est 8h34.
Guillemette Franquet sur RTL.
Et demain.
Notre regard du matin vers l'avenir après un an et demi de crise sanitaire. Une rencontre, des confidences d'une personnalité sur cette vie bouleversée par le virus. Hier, c'était l'écrivain Éric Emmanuel Schmitt. Aujourd'hui, face à face avec un réalisateur de cinéma.
Bonjour Alexandre Arcadie.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bon, voilà quoi. On avait des espérances, beaucoup d'espérances. On pensait en être sortis de cette période assez compliquée. Et puis voilà, l'horizon n'est pas totalement bleu. Il faut pas non plus exagérer. Ça sera pas tout noir, je l'espère. Mais on aime tellement le bleu, on aime tellement ce qui éclabousse de lumière. Donc voilà, espérons.
Nous vous parlez d'espoir. Vous, qu'est-ce que vous espérez pour la suite ?
Pour moi, personnellement ?
Oui, en tant que réalisateur, bah, écoutez, en tant qu'homme.
D'abord, en tant qu'homme, j'espère conserver la santé que j'ai aujourd'hui. Et puis, en tant que cinéaste, continuer ce métier qui est difficile parce que le mode de fonctionnement est devenu tout à fait autre. Mais ce qui est réconfortant pour nous, les cinéastes, les créateurs, les raconteurs d'histoires, c'est que quel que soit le format, le spectateur ou le téléspectateur a envie d'être au rendez-vous, que ce soit du long métrage, que ce soit de la série, que ce soit du documentaire. C'est aussi quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Voilà. Et c'est ça qui est réconfortant.
Vous pensez que la pandémie, elle a changé le rapport des téléspectateurs au cinéma ?
J'ai l'impression qu'elle l'a entraîné par la surconsommation, hein, à être plus critique, à avoir plus d'exigences. Et c'est un bien. La seule différence, c'est que j'espère que le format normal du cinéma ne va pas être délaissé pour des formats beaucoup plus longs que sont les séries.
Vous craignez que les téléspectateurs abandonnent les salles de cinéma ?
Je pense sérieusement qu'il va y avoir une façon de réguler. C'est-à-dire qu'il y aura des films qui iront directement sur le petit écran, parce que le format le permet. Et il y a des films qui nécessitent le grand écran, qui resteront dans les salles de cinéma.
Et qu'est-ce que vous en pensez ?
Ce qui est un petit peu dommageable, parce que quand on pense à certains films, par exemple Cinéma Paradiso, c'est un film assez ancien, on ne pensait pas que ce film qui racontait l'histoire d'un petit village en Sicile, d'un enfant qui aime le cinéma, allait bouleverser le monde entier. On ne pensait pas. Et c'est sa sortie sale qui a permis ce genre de film.
Si vous deviez trouver un mot pour qualifier le Covid, vous utilisez...
Saloperie. C'est une saloperie. On n'imaginait pas traverser une période comme celle-là. Voilà, on est démunis.
Qu'est-ce qu'on n'avait pas dans le monde d'hier, qu'on aura dans le monde de demain ?
Je pense que ça ne changera pas grand-chose, au fond. Je réfléchis, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on a la mémoire courte. Parce qu'on n'y pensera plus, très vite. Si on arrive à combattre ce virus, on n'y pensera plus. Dans quelques années, dans un an, deux ans, ce sera fini.
Est-ce qu'il y a un son ou une musique qui vous a accompagné durant le Covid, qui a illuminé votre journée, qui vous a inspiré ?
Il y a une chanson de Dan Sylvestre que je ne connaissais pas, et pourtant je connaissais Anne Sylvestre, qui a bercé mon enfance et qui m'a accompagné durant une partie de mon adolescence. C'est une chanson qui s'appelle « Un mur pour pleurer ».
Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh. Je cherche un mur pour pleurer, oh, oh, oh.
C'est assez proche de parfois du sentiment qu'on avait quand on était enfermé.
Merci beaucoup Alexandre Arcadie.
Mais c'est moi qui vous remercie de m'avoir écouté avec gentillesse.
Aussitôt le dos tourné, on est copains, copains, on ne se raconte rien, plus rien.
Chaque jour, un entretien avec une personnalité, c'est « Et demain », signé Guillemette Franquet sur RTL durant tout cet été. Vous restez bien là, la culture s'invite dans un instant, et quel plaisir, une bonne dose, lecture, visite de musée au programme. C'est « Laissez-vous tenter », version été, 8h39. Merci de nous accompagner, c'est RTL.
Vous êtes bien sur RTL. RTL, toujours avec vous.